Hébreux, chapitre 7, première partie. Ce soir est d'entendre Joyce chanter. Saviez-vous que c'est un miracle en soi? Cette petite fille, comment peut-elle penser à tout cela? C'est vraiment un petit génie. Que le Seigneur bénisse cet enfant. Maintenant, demain à 2h30 à la chapelle mortuaire de Charlestown, Indiana, notre chère sœur disparue, sœur Colvin, nous lui donnons nos derniers respects à la chapelle mortuaire et à la tombe demain après-midi. C'était une qui vivait une foi comme vous ce soir et qui est passée au-delà du voile où vous irez un jour. Et tous ceux qui désirent assister au service sont évidemment les bienvenus. Cela sera certainement un grand soutien pour la famille Colvin de savoir que le tabernacle ici, où ils sont tous venus à l'église pendant si longtemps, et ainsi veulent, nous serons contents si vous venez. Et je crois que notre cher frère Mac Kinney, celui qui prêcha aux funérailles de mon frère il y a de nombreuses années, a la partie principale des funérailles, et j'ai été demandé pour aller l'aider dans le service de funérailles. Maintenant, j'étais un peu en retard ce soir. J'ai tant de fer dans le feu, je ne sais pas de quel côté aller. Il y a tant d'appels, et ces naufrages, et ces accidents, et des gens qui téléphonent, qui viennent. Nous avons juste quitté Louisville il y a quelques instants pour arriver ici rapidement, et nous avons laissé plusieurs appels. C'est vraiment exténuant, et qui doivent être encore faits, je pense, encore ce soir. Et maintenant, priez pour nous alors que nous avançons. Ce matin, je ne suis pas arrivé à mon texte au 7e chapitre du livre des Hébreux. Et alors que nous nous tournons à cela ce soir, je veux faire les annonces concernant les réunions du frère Graham Snelling à la tente au bout de l'avenue Brigham. Si le Seigneur le veut, je désirais être de retour mercredi soir. Et là, nous désignerons un certain soir dans le courant de la semaine où nous irons comme délégation à la réunion de frère Graham. Et il a dit qu'il a une bonne foule et il appréciera notre soutien. Frère Graham Snelling, ceux qui assistent à la réunion, ou plutôt qui désirent le faire, c'est juste au bout de l'avenue Brigham. N'importe qui peut vous dire où cela se trouve. La tente est placée juste à la fin de la place de jeu. Il apprécie votre coopération, parce que nous, comme tabernacle, avons promis notre coopération avec lui, à 100%. Ainsi, nous allons essayer de l'aider. Maintenant, alors bientôt nous arrivons à cet endroit, le Seigneur voulant, au chapitre 11 des Hébreux, dans quelques soirs, si Dieu le veut. Et là, je crois que nous aurons aussi de glorieux moments. Eh oh, le Seigneur nous a bénis ce matin d'une manière merveilleuse, comme il a déversé son esprit sur nous. Et maintenant, ce soir, nous espérons qu'il le fera de nouveau. Et de nouveau mercredi soir et ainsi de suite. Et les soirs où je manquerai, le frère Neville sera ici pour continuer si je ne suis pas là. Je ne sais jamais ce que je ferai. Vous pouvez être ici à cette heure-ci et être appelé en Californie l'heure d'après. Voyez, vous ne savez pas où le Seigneur vous enverra. C'est pour cette raison que c'est difficile pour moi de préparer des itinéraires et de dire nous ferons ceci et nous ferons cela. Je peux commencer de faire une certaine chose. Le Seigneur va m'envoyer autre part alors, vous voyez? Ainsi nous ne savons pas exactement ce qu'il fera. Mais le Seigneur voulant, c'est ce que nous disons. Et je pense que nous sommes chargés ou commandés de cette manière-là dans la Bible. Si le Seigneur le veut, nous ferons cette chose-ci et celle-là. Et si nous n'arrivons pas à accomplir nos rendez-vous, nous pensons que peut-être ce n'était pas la volonté du Seigneur que cela arrive. L'autre jour, nous avons été retenus, frère Robertson et frère Wood et moi-même, et nous nous demandions pourquoi. J'étais assis là, regardant une carte, descendant, nous avons fait 50 000 sur une route, roulant de nouveau vers le nord. Et j'ai voyagé sur les grandes routes depuis que j'avais environ 14 ans. Et je me suis demandé comment j'ai pu faire cela. Nous étions là tous les trois, nous avons tous voyagé sur les grandes routes. Et regardant une carte, restant sur 130, passant à travers l'Illinois, nous avons fait un petit tournant, ne réalisant pas que le soleil était derrière nous au lieu qu'il soit devant nous. Et nous roulions vers le nord au lieu du sud. Et la première chose que vous voyez, nous avons traversé la route, j'ai dit, ce n'est pas la bonne route. Nous avons regardé et nous nous sommes aperçus que nous étions à 50 000 du bon chemin, allant directement dans cette direction. Alors, comme nous retournions, nous discutions ensemble. Je dis, savez-vous pourquoi? Nous, le Seigneur pourrait nous avoir fait passer par ce chemin-ci pour nous garder d'un horrible accident quelque part là en bas, qui aurait pu faire quelque chose de différent. Nous savons que toute chose œuvre pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est tout ce que nous devons garder dans notre esprit. Maintenant, ce soir, nous commençons maintenant dans une petite leçon d'enseignement. Et si je suis, je ne pense pas que nous arriverons à... Peut-être que nous y arriverons ce soir. Ah, c'est le grand chapitre de l'enseignement sur la dîme à l'Église. Et c'est un grand sujet sur lequel nous pourrions rester pour des semaines et des semaines sur cette chose-là. Comment Abraham paya la dîme à Melchisédek et si payer la dîme est essentiel ou pas. Est-ce que ce ventilateur ennuie quelqu'un là derrière? Aimeriez-vous mieux l'arrêter? Si cela gêne quelqu'un ou si cela vous souffle au visage ou quoi que ce soit, levez simplement votre main. Et, ou envoyez un des huissiers ou quelqu'un vers le frère ici et il l'arrêtera pour vous. Et j'essaye de le garder loin de moi, j'ai chaud et je transpire. Et la première chose qui se passe, je deviens tout enroué. Ainsi, c'est sur vous. Ainsi, cela ne m'ennuiera pas du tout. Mais nous désirons que vous soyez assis confortablement maintenant. Nous allons essayer de ne pas prendre trop de votre temps, mais nous regarderons directement à la parole. Et avant que nous le fassions, parlons à l'auteur pour quelques instants. Maintenant, Père Céleste, nous ne savons pas ce qu'il y a en réserve. Mais la seule chose que nous savons et sommes persuadés, c'est que de bonnes choses sont devant nous. Car il est écrit, les yeux n'ont pas vu et les oreilles n'ont point entendu, et cela n'est pas montré dans le cœur des hommes ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Et nous prions que tu ouvriras les fenêtres du ciel ce soir, dans ton magasin, et que tu nous donneras ta parole, qui sera quelque chose de convenable, quelque chose pour augmenter notre foi comme chrétiens, et que nous devenions mieux enracinés dans l'Évangile que nous y étions quand nous sommes entrés. Accorde-le, Père, que le Saint-Esprit prenne la parole de Dieu et la fasse pénétrer dans chaque cœur selon nos besoins. Au nom de Jésus, nous prions, lui ton Fils bien-aimé. Amen. Maintenant, ce matin, en laissant le dernier verset du sixième chapitre, ainsi nous pouvons directement aller dans le septième. Là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, étant devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, nous allons lire les trois premiers versets, les trois premiers versets du septième chapitre, afin que nous puissions directement commencer. Car ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit, auquel aussi Abraham donna pour part la dîme de tout. Voilà votre dîme. Premièrement, étant interprété roi de justice, et puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité. Quelle déclaration magnifique! Maintenant, nous voulons être obligés d'aller dans l'Ancien Testament pour en sortir ces pépites. Et, oh, comme je les aime! Vous savez, là-bas en Arizona, une fois, nous prospections, et nous voulions aller dans un coin de terre propice, Monsieur McNally et moi-même, et nous voulions voir un endroit qui semblait... Dans les petits fossés où ils, une petite saignée, ils appellent cela laine. Et je, Il me descendait et me faisait frotter le sable et... Frère Branham souffle, note de l'éditeur. Le souffler et le frotter et... Frère Branham souffle, note de l'éditeur. Le souffler. Et je me demandais pourquoi il faisait cela. Et j'ai trouvé, vous voyez, quand vous soufflez le sable, c'est léger. Et tout, même le plomb, est plus léger que l'or. Dieu est plus lourd que le plomb. Ainsi, quand vous soufflez, tous les autres métaux et le sable et la saleté va s'envoler, mais l'or restera sur le sol. Ainsi, si vous aviez des lavés de là-dedans, cela montre qu'il y a une trace d'or quelque part là-dedans, que la pluie a lavé ces petites pièces. Ainsi, alors nous prenons le pic et ainsi de suite et creusons presque la colline, essayons de trouver cet or. Creusons des trous dans le sol, les faisions sauter la dynamite et nous continuons à creuser jusqu'à ce que nous ayons trouvé. Pour trouver la veine principale. Maintenant, c'est ce que nous appelons prospecter. Et ce soir, nous essayons de prendre la parole de Dieu et de l'employer par la puissance du Saint-Esprit pour souffler toutes les indifférences et les doutes loin de nous, toutes ces petites choses duveteuses qui n'ont aucune fondation, qui n'ont aucun poids dans notre vie. Nous voulons souffler tout cela bien loin afin que nous puissions trouver cette veine glorieuse. Et cette veine est Christ. Et maintenant, que Dieu nous aide alors que nous lisons et étudions sa parole. Et presque dans les trois précédents chapitres, nous avons parlé d'entendre, juste de temps à autre, Melchisédek. Maintenant, je pense que Paul donne l'interprétation correcte. Ce Melchisédek était roi de Salem. Roi de Salem, et n'importe quel érudit de la Bible sait que Salem était auparavant, Jérusalem était auparavant appelé Salem. Et il était le roi de Jérusalem. Observez-le. Prêtre du Dieu très haut. C'est un intercesseur qui alla à la rencontre d'Abraham. Je veux prendre sa généalogie, ce grand homme, afin que vous sachiez qui il est d'abord. Et alors vous, nous continuerons avec l'histoire. Qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout, et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice. Maintenant remarquez, justice. Maintenant nous avons le pharisaïsme, nous avons la soi-disant justice, nous avons la justice pervertie, beaucoup de sortes, mais il y a une vraie justice, et cette justice vient de Dieu. Et cet homme était le roi de la justice. Qui pourrait-il être? Maintenant, il était le roi de justice, le roi de Jérusalem, le roi de justice, le roi de paix. Jésus fut appelé le prince de la paix. Et un prince est le fils d'un roi. Ainsi, cet homme était roi de paix. Ainsi, il devait être le père du prince de la paix. Vous comprenez? Maintenant, voyons, prenons sa généalogie un peu plus loin pour voir où nous allons. Il est sans père. Maintenant, Jésus avait un père. Croyez-vous cela? Certainement, il était. Sans mère, Jésus avait une mère. Mais ce gars-ci n'avait ni père ni mère. Sans descendance, il n'eut jamais personne de qui il vint. Sans descendance, il a toujours été sans descendance. Il n'a ni commencement de jour. Il n'a jamais eu un moment où il commença. Ni fin de vie. Cela ne pourrait être rien d'autre que Dieu. Cela ne pouvait être que lui. Maintenant, si vous remarquez, comme nous lisons le prochain verset, vous voyez, et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice. Ce n'est pas où je veux aller, le troisième verset. Ni fin de vie est rendu semblable au Fils de Dieu. Maintenant, il n'était pas le Fils de Dieu, car s'il était le Fils, il y avait un commencement, et cet homme n'eut pas de commencement. Et s'il était le fils, il devait avoir et un père et une mère. Et cet homme n'avait ni père ni mère, mais il fut fait semblable au Fils de Dieu. Il demeure prêtre à perpétuité. Maintenant, le docteur Scofield essaye de dire que c'était un sacerdoce, appelé le sacerdoce de Melchisédek. Mais je veux seulement vous retenir sur cela pour quelques minutes. Si c'était un sacerdoce, cela devait avoir un commencement et cela devait avoir une fin. Mais cela n'avait ni commencement, ni fin. Et il ne dit pas qu'il rencontra un sacerdoce. Il rencontra un homme et il appela son nom Melchisédek. C'était une personne pas une dénomination, pas un sacerdoce ou une paternité. Il était absolument un homme du nom de Melchisédek qui était le roi de Jérusalem. Pas un sacerdoce, mais un roi sans père. Les sacerdoces n'ont pas de père. Et cet homme était sans père, sans mère, sans commencement de jour ni fin de vie. Maintenant, le Fils de Dieu. Qui était-ce? C'était Jéhovah. C'était le Dieu tout-puissant lui-même. Cela ne pouvait être personne d'autre. Maintenant, remarquez. Il demeure à perpétuité. Il était un témoignage ici qu'il vit, il ne meurt jamais. Il n'a jamais été autre chose que vivant. Il demeure à perpétuité. Maintenant, Jésus a été fait comme lui. Maintenant, la raison pour laquelle il y a une différence entre Dieu et Jésus. Jésus a eu un commencement. Dieu n'a pas eu de commencement. Melchisédek n'a pas eu de commencement. Et Jésus a eu un commencement. Mais Jésus a été fait comme lui. Un prêtre qui demeure à perpétuité. Maintenant, quand Melchisédek était sur la terre, il n'était rien sur la terre que le Dieu Jéhovah rendu manifeste par création. Il était ici comme une théophanie. Abraham le rencontra une fois dans sa tente. Et comme nous l'avons dit ce matin, Abraham le reconnut. Et il dit à Abraham ce qu'il allait faire parce qu'il ne voulait pas laisser l'héritier du monde aveugle concernant les choses qu'il allait faire. Est-ce que je peux arrêter ici pour une minute pour dire Dieu a toujours la même opinion sur son Église? Vous n'êtes pas des enfants des ténèbres, vous êtes des enfants de la lumière. Et le « nous qui » bénissons ceux qui sont humbles, car ils hériteront la terre. Est-ce que le Dieu qui se présente à Abraham, qui devait hériter la terre, et il dit « je ne cacherai pas ces choses à l'homme qui doit hériter de la terre », combien plus révélera-t-il ses secrets à son Église qui va hériter la terre? Daniel a dit « en ces jours-là, ils iront de ci et de là, et la connaissance augmentera. » Et il dit « en ces jours-là, les sages connaîtront leur Dieu et feront de grandes choses en ces jours-là. Mais les méchants ne connaîtront pas le Dieu du ciel. Ils le connaissent dans une forme et dans un rituel, comme nous l'avons dit dans notre première leçon, mais ils ne le connaissent pas par le chemin de la perfection. Et Dieu ne peut travailler qu'au travers de la perfection parce qu'il est parfait. Béni soit son nom. Le canal par lequel Dieu travaille doit être parfait parce qu'il ne peut rien faire d'autre mais travailler à travers la perfection. Il ne peut se salir d'aucune manière. Et alors, c'est pour cela que Jésus vint pour enlever nos péchés, afin que nous puissions être parfaits pour que Dieu puisse œuvrer à travers son Église. Voilà où est le secret. Voilà où le monde est aveugle. Voilà où ils diront que vous avez perdu la tête. Voilà où ils diront, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Parce que les choses du Seigneur sont folies pour la sagesse de ce monde. Mais les choses du monde, c'est charnel pour le croyant. Ainsi, vous êtes une personne différente. Vous vivez dans une sphère différente. Vous n'êtes plus du monde. Vous êtes passé de cette vie à une autre vie. Ainsi, Dieu révèle, pas au monde, pas aux psychologues, pas aux prédicateurs bien éduqués, mais aux humbles de cœur. Son peuple qui est humble, il leur révélera les secrets des grandes choses de Dieu. Le voyez-vous? Maintenant, Abraham devait hériter le monde. Et à travers la semence d'Abraham, toutes les nations devaient être bénies. Ainsi, Dieu descendit et lui parla dans une forme humaine. Et maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. S'il avait une fois quitté la terre, je ne sais pas ce qu'il en deviendrait. Mais Dieu a toujours été ici dans une forme quelconque. Oh, gloire à son nom! Il était avec les enfants d'Israël dans le désert, sortant d'Égypte, dans la forme d'une lumière. Il parla à Abraham dans la forme d'un homme. Il parla à Moïse dans la forme d'un homme. Il parla à l'Église sous la forme d'un homme. Son Fils, Jésus-Christ. Et il parle à travers son Église aujourd'hui, à travers l'Église aux ointes du Dieu vivant, à travers des vases d'argile. Vous êtes les sarments, je suis le sceptre. Dieu parle encore, et le monde voit Jésus comme vous le présentez. Voilà comment le monde Vous êtes des épîtres écrites lues par tous les hommes. Votre vie montre ce que vous êtes. Maintenant, c'est Abraham sur sa route, revenant. Nous allons regarder en arrière et lire quelque chose le concernant dans un petit moment, dans le livre de la Genèse, dans le 14e chapitre de la Genèse. Je crois que cela se trouve là. Oh, comme l'histoire est magnifique ici. Maintenant, nous connaissons tout sur Abraham, comment Dieu l'appela à sortir de la terre de Chaldée et de la cité d'Ur, et lui dit de se séparer de ses associés. Dieu appelle des hommes et des femmes. Il les appelle à une séparation. Maintenant, voilà le problème avec les églises aujourd'hui. Elles ne veulent pas se séparer des vieux incroyants charnels. C'est pour cela que nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous allons simplement dans ce courant charnel et nous disons, « Oh, Jim est un bon gars, s'il boit, s'il... Je vais avec lui à la salle de billard, mais je ne joue pas au billard. Je vais avec elle à une surprise partie. Il raconte de sales histoires, mais moi, je n'en raconte pas. Sortez du milieu d'eux, c'est juste. Séparez-vous, ne touchez pas aux choses sales, et je vous recevrai, dit le Seigneur. Ne vous mettez pas avec les incrédules sous un lien d'iniquité. Ne le faites pas. Séparez-vous. » Et Dieu appela Abraham à se séparer de tous ses parents et de marcher avec lui. Frère, parfois, cela veut dire sortir d'une église. Voilà ce que cela représenta pour Paul. Il dut quitter son église et beaucoup d'autres durent le faire. Parfois, ça veut dire quitter son foyer. Parfois, cela veut dire quitter son père, sa mère, tout abandonner. Je ne veux pas dire que cela arrive toutes les fois, mais parfois cela arrive. Cela veut dire que vous devez abandonner tout ce qu'il y a entre vous et Dieu et marcher avec lui seul. Oh, cette douce communion bénie, cette communion que vous avez quand vous vous séparez des choses du monde et le croyant charnel qui se moque de vous et que vous marchez seul avec Christ. Combien de fois ai-je remercié Dieu? Il a dit, « Je vous donnerai des pères et des mères dans ce monde présent. Je vous donnerai des amis et des associés et je ne vous laisserai jamais. Et je ne vous abandonnerai pas. Même si tout le monde vous tourne le dos, j'irai avec vous jusqu'à la fin de la route. » Et quel privilège béni et quelle occasion l'homme a de suivre le Seigneur Jésus, de se séparer de ses associés charnels pour suivre le Seigneur. Et s'il y en a qui semblent se comporter droitement et qui se présentent comme chrétiens mais qui aiment les choses charnelles, il est préférable pour vous de chercher un autre partenaire tout de suite, c'est juste. Et si personne ne veut marcher avec vous, il y en a un qui a promis de marcher avec vous. C'est le Seigneur Jésus béni. Il marchera avec vous. Dieu dit à Abraham, « Sépare-toi !» Et aussi humain qu'était Abraham, il prit son papa avec lui. Il prit avec lui le fils de son frère, son neveu, et ils se tenaient tous vers lui. Et Dieu ne l'a jamais béni avant qu'il ne fasse ce que Dieu lui demanda. Je ne dis pas que vous n'êtes pas un chrétien, c'est. Je n'essaye pas de déchristianiser quelqu'un ici, mais je dis ceci, si Dieu vous a dit de faire quelque chose, il ne vous bénira jamais avant que vous ne l'ayez fait. Je me tiens à la chair ce soir avec une de ces choses se tenant sur moi. Mes réunions n'ont pas été ce qu'elles devraient être pour les deux dernières années. C'est parce que j'ai failli par rapport au Seigneur. Il m'a dit d'aller en Afrique, puis en Inde. C'est écrit ici au dos de ce livre, juste maintenant. Et le manager m'a appelé et a dit, « Laissez aller ces Africains, l'Inde est prête. » Et le Saint-Esprit me rencontra et me dit, « Tu iras en Afrique comme je te l'ai demandé. » Et une autre année passa. Et les managers, ils disent, j'ai oublié cela, nous allons aux Indes, les billets sont déjà là. Je partis et j'oubliais tout jusqu'à ce que j'arrive au Liban. Une nuit que je croyais que j'allais mourir. Le matin suivant, je partis pour aller prendre un bain dans la salle de bain. Oh, j'étais si malade, je pouvais à peine me tenir debout. Et là, cette lumière était là dans la salle de bain. Et elle me dit, je croyais que je t'avais dit d'aller d'abord en Afrique. Mes réunions depuis ce temps-là ont diminué lentement. Même si j'ai été aux Indes avec près d'un demi-million qui se tenaient là, mais ce n'était pas faire ce que Dieu avait dit de faire. Et je sens que mes réunions ne seront jamais un succès avant que je retourne et que je règle cette chose. Peu importe ce que je fais, c'est d'abord l'Afrique parce que vous devez le faire. Voilà la parole éternelle de Dieu qui se trouve là. Je savais mieux que cela, mais je dois retourner et je sens que cette prochaine année, c'est le moment. Je sortirai de la coquille avec l'aide du Seigneur. Ce vieil évangile glorieux qui a grandi facilement comme un chêne, mais je crois qu'il est à peu près prêt à étendre ses branches maintenant. Je le crois, ce glorieux message et ces grandes choses. Je crois que le Seigneur nous laissera secouer le monde de nouveau pour la gloire de Dieu. Vous devez faire ce que Dieu vous a dit de faire. Et Abraham continua, il prit ses parents avec lui. Il les aimait, c'est la partie humaine. Mais après un certain temps, petit à petit, son père mourut et il l'enterra. Alors il y avait son neveu, et les querelles et les disputes commencèrent. Et finalement, Lot fit son choix et il descendit à Sodome. Et remarquez qu'Abraham ne discuta pas avec Lot. Il dit, « Nous sommes des frères, nous ne devons pas argumenter, mais lève ta tête et tu iras dans n'importe quelle direction que tu désires aller. Si tu vas à l'est, j'irai à l'ouest. Si tu vas au nord, j'irai au sud. » Voilà l'attitude chrétienne. Être d'accord de donner à l'autre homme le meilleur de l'affaire. Présentez-la lui toujours. Laissez-le faire son choix. Car pourquoi? Qu'est-ce qui fit faire cela à Abraham? Il savait que Dieu lui avait promis qu'il hériterait tout cela de toute façon. Amen! Ainsi, une tente ou un chalet, pourquoi devrions-nous nous en faire? Toutes ces choses nous appartiennent. Bénis sont les humbles, car ils hériteront la terre. Tout cela vous appartient, Dieu l'a dit. Ainsi, donnez à l'autre le meilleur choix s'il le veut. Peut-être que c'est tout ce qu'il possédera jamais. Mais cela nous appartient tous, les héritiers du salut, par une promesse. Tout est à nous. Ainsi, Sarah, la femme la plus belle dans tout le pays, elle était assise là, sur la colline, avec son mari, comme elle devait le faire. Elle était habillée tout simplement, avec peut-être une simple robe calico, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, tandis que Madame Lot s'habillait comme une millionnaire. Et son mari était le maire de la ville. C'était un juge qui était assis à la porte. Elle avait tout. Elle se rendait à toutes les soirées de tricotage et à toutes les parties de cartes qui se faisaient à Sodome et à Gomorre. Mais Sarah était plus heureuse de vivre avec son mari, avec des choses moins copieuses, en sachant qu'elle était dans la volonté de Dieu, au lieu de jouir des richesses de ou du plaisir d'être riche pour un temps. C'est juste. Voilà quand Dieu visite. Et un jour, aussi sûr que vous prenez la fausse route, un jour ou l'autre, cela vous rattrapera. Vous pensez peut-être que tout ira bien. Vous pensez peut-être que vous vous en sortirez. Mais ce n'est pas vrai. Il semble peut-être que tout est bien camouflé, mais cela n'est pas camouflé. Dieu sait tout. Il sait si votre confession est vraiment sincère ou pas. Il sait si vous croyez vraiment en lui et si vous êtes sauvé et si vous l'acceptez et si vous êtes mort aux choses du monde et si vous êtes vivant en Christ. Il sait cela. Maintenant, nous remarquons Abraham. Je veux que vous remarquiez ce vrai esprit. Oh, toute cette chose bénie ici, c'est la grâce. Je veux que vous lisiez avec moi. Maintenant, au 14e chapitre de l'Exode, juste un moment. Maintenant, la première chose qui se passa quand ils arrivèrent là, en bas, Lot se trouva en difficulté. Pourquoi? Il était en dehors de la volonté de Dieu. Et si vous êtes en difficulté quand vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu vous en sortira. Mais si vous êtes en difficulté en dehors de la volonté de Dieu, il n'y a qu'une chose à faire, retourner de nouveau dans la volonté de Dieu. Maintenant, les rois se mirent tous ensemble, et ils trouvèrent que les plaines là en bas étaient bien arrosées, et qu'ils iraient simplement là en bas pour prendre ces vieilles petites villes de Sodome et de Gomorre. Et ils le firent. Et quand ils descendirent, ils en prirent possession, et ils prirent avec eux Lot. Maintenant, je veux que vous remarquiez l'Esprit de Christ ici dans Abraham. Maintenant, remarquez le 14e verset. Dès qu'Abraham apprit que son frère, comprenez-vous, avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Oh, quelle pensée de grâce bénie! Abraham même, déchu de la grâce, même s'il était dans cette condition de chute, quand il entendit que le monde l'avait attrapé, et l'avait capturé, et l'avait pris pour le massacrer, Abraham agit par l'Esprit de Christ. Il vint, il arma tous ses hommes qui étaient nés dans sa maison, et ils partirent après eux, et ils les poursuivirent jusqu'à Dan. Et Dan est la partie extrême de la Palestine, de Dan à Beersheba d'un bout à l'autre. Et c'est un type de Christ. Quand il vit que le monde avait pris, était tombé, il poursuivit l'ennemi jusqu'à la fin pour recevoir de nouveau la race déchue d'Adam. Je veux que vous remarquiez le prochain verset. Combien est doux l'esprit qui parle par lui. Très bien, 15e verset maintenant. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Et quand Abraham chassa l'ennemi qui avait pris son frère, il le poursuivit à travers tout le pays jusqu'à Dan. Et il rapporta tout ce qu'il avait perdu dans la chute. Quelle magnifique image de Christ qui entendit du ciel que nous étions perdus, et il vint, il poursuivit l'ennemi jusqu'en enfer, et il captura les âmes perdues, et il nous ramena, et il nous restitua à tout ce que nous avions avant la chute. Nous récidivons, nous qui étions nés pour être des fils de Dieu qui furent pervertis, ou des fils du diable, et qui avons fait cela, nous allèrent après les choses du monde, avons mal agi, avons couru avidement comme Lot, vendant notre droit d'aînesse, allant après les choses du monde, Christ descendit. Quand bien même nous étions déchus, Dieu sachant au commencement qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Ainsi il descendit et il poursuivit l'ennemi à travers la vie, à travers la mort, à travers le paradis, jusqu'en enfer. Et depuis la gloire jusqu'en enfer, il prit possession des pouvoirs de l'enfer et il prit les clés du diable. Et il ressuscita de nouveau. Et il restitua à l'humanité qu'il puisse être de nouveau des fils et des filles de Dieu. Voyez-vous l'esprit d'Abraham là? L'esprit de Christ venant avec lui? Maintenant, je veux que vous remarquiez un peu plus loin comme nous lisons. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Ils sortirent. Le roi de Sodome fut ramené, son frère fut ramené, les enfants furent ramenés. Et ici les rois sortirent pour le rencontrer. Et aussi, c'est ici que je vais arriver au message maintenant. Observez ici. Et Melchisédek, roi de Salem, roi de Jérusalem, roi de paix, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Melchisédek, le roi de Salem, se représenta aussi parmi les autres rois. Et remarquez, la bataille était terminée. L'Esprit de Dieu dans Abraham, de Christ, qui avait ramené son frère déchu, et il le restaura dans sa juste condition, dans tout ce qu'il avait perdu. Il l'avait ramené, et quand il le fit, il apporta du pain et du vin, la communion. Ne pouvez-vous pas voir qui était ce Melchisédek? C'était Dieu! Il apporta la communion après la bataille. Maintenant, retournons de nouveau à Matthieu 26-26, très rapidement, et voyons ce que Jésus dit sur cela. Dans le livre de Matthieu, le 26e chapitre et aussi le 26e verset, nous voulons lire seulement un petit peu ici, très bien. Matthieu 26-26. Alors Jésus se rendit avec eux à un endroit appelé Golgotha. Golgotha, ou Gethsémané, je veux dire. Et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais un peu plus loin pour prier. » Je crois que je n'ai pas la bonne écriture ici. Matthieu, le 26e verset du 26e chapitre. Si quelqu'un l'a, lisez-la pour moi, si vous pouvez la trouver. Juste une minute. C'est un titre magnifique ici, et je ne veux pas que vous le manquiez. Nous y voici. Une sœur qui l'a. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, la bataille était terminée, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Voyez-vous ce Melchisédek, des centaines d'années auparavant, quand il rencontra Abraham, après que la bataille fut terminée, il donna du pain et du vin. Et Jésus donne aux disciples, après que sa dure bataille fut terminée, il leur donna du pain et du vin. Observez le futur qui arrive. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai avec vous de nouveau dans le royaume de mon Père. Nous sommes la bataille maintenant. Nous sommes là cherchant nos frères déchus que Dieu, avant la fondation du monde, vit et prédestina à la vie éternelle. Et les choses du monde l'ont attrapé dans un tourbillon. Il est dehors, dans des sociétés, dans des classes, lui et sa femme, marchant le long des rues, fumant et buvant, faisant la noce, essayant de trouver la paix. Et l'Esprit de Christ en nous, comme il était dans Abraham, et nous sommes partis avec lui, avec toute l'armure de Dieu, les anges de Dieu campant autour de nous, nous voilà partis pour ramener notre frère perdu. Et quand la bataille est finalement finie, nous retrouverons de nouveau Melchisédek. Béni soit Dieu, qui bénit Abraham là, et lui donna la bénédiction, et lui donna le pain et le vin, la communion. Et quand la bataille sera terminée, nous le rencontrerons, nous qui sommes les héritiers de la promesse d'Abraham. Nous sommes les héritiers avec Christ dans le royaume. Nous le rencontrerons à la fin de la route, et nous prendrons de nouveau le pain et le vin, quand la bataille sera finie. Qui est ce Melchisédek? Celui qui n'avait ni père ni mère, qui n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie. Il sera là pour donner de nouveau la communion. Comprenez-vous? Et quand nous montons, certains soirs, quand nous venons ensemble pour prendre la communion des mains des ministres, représentant que nous croyons à la mort, à l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus, ce voile, son corps dans lequel il était voilé, lui qui est Dieu, nous le prenons comme représentant que nous sommes morts aux choses du monde et que nous sommes nés de nouveau dans l'Esprit. Et nous marchons avec le corps de Christ, tous les croyants ensemble. Et quand la grande bataille est finie, et que nous revenons de nouveau avec Christ, nous prendrons de nouveau la communion avec lui dans le royaume de Dieu. Et mangerons la chair, et boirons le sang du raisin de nouveau dans le royaume de Dieu. Oh, voilà Melchisédek, voilà qui il était. Maintenant, lisons un peu plus loin sur lui ici. Le 18e verset. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, comprenez-vous? Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Et il le bénit, et il bénit. « Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il paya la dîme à Melchisédek. Abraham lui donna un dixième de tout ce qu'il avait pris comme butin. Maintenant, je veux que vous remarquiez comme Paul continue ici, donnant un arrière-plan pour la prochaine leçon maintenant. Et le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Maintenant, le roi de Sodome dit, « Maintenant, tu me redonnes seulement mes sujets et tu gardes les richesses pour toi. » Et Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, El Elyon, le possesseur du ciel et de la terre, dans cet endroit, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas même un fils, ni un cordon de soulier. » Il n'avait pas une grande campagne pour prendre de l'argent, il voulait seulement son frère perdu. « Afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. » Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens est la part des hommes qui ont marché avec moi. Maintenant, je veux que vous remarquiez qu'Abraham a dit, « Je ne prendrai pas même un fils ou un cordon de soulier. » Il ne fit pas la guerre pour faire beaucoup d'argent. Et les vraies batailles ne sont pas faites pour des motifs égoïstes. Les guerres ne sont pas combattues pour de l'argent. Les guerres sont combattues pour des motifs et pour des principes. L'homme fait des guerres pour des principes. Et quand Abraham sortit pour aller chercher Lot, il ne le fit pas parce qu'il savait qu'il pouvait détruire les rois et prendre leur possession. Il y a là pour le principe de sauver son frère. Et n'importe quel prédicateur qui part sous l'inspiration du roi du ciel n'ira pas pour de l'argent. Il n'y ira pas non plus pour faire de grandes églises. Il n'y ira pas non plus pour inspirer des dénominations. Il n'y ira que pour un principe, et c'est pour ramener son frère perdu. Qu'il obtienne 10 sous dans l'offrande ou pas du tout, ça ne fera aucune différence pour lui. Comme je l'ai dit, les vraies guerres sont combattues et faites pour des principes et non pour de l'argent. et les hommes et les femmes qui se joignent à des églises et qui viennent dans des églises pour être populaires, parce que les gens s'y appartiennent, ou ils changent d'église, d'une petite église pour une grande église, si vous le faites pour un motif égoïste, les principes justes ne sont pas derrière cela. Vous devriez être décidé à vous tenir au devant de la bataille. Dans ce tabernacle ici, quand les choses vont mal, et que vous, hommes et femmes, allez ailleurs, ou que vous restiez dehors jusqu'à ce que les histoires soient passées, il y a quelque chose de faux avec votre expérience. C'est juste. Nous avons une coutume ici. Nous avons un ordre ici. L'Église est basée sur les ordres et principes de la Bible. Et s'il y a quelqu'un ici qui ne fait pas juste, et que vous pensez qu'ils ne font pas juste, vous devez aller vers lui et vous lui parler. Et si vous ne pouvez pas le réconcilier, alors prenez notre frère avec vous, un ou deux. Alors s'il ne veut pas se réconcilier, dites-le à l'Église. Et l'Église le congédiera, n'ayez plus de communion avec lui. Et Jésus dit, ce que vous délirez sur la terre, je le délirerai dans les cieux. C'est la raison pour laquelle vous avez tant de problèmes, parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Et si quelqu'un dans l'Église est la cause d'agitation ou que quelque chose ne va pas, ce n'est pas votre devoir d'aller parler de cet homme ou de cette femme. C'est votre devoir d'aller vers cet homme ou cette femme. Et dites-lui son erreur. Et s'il ne veut pas vous écouter, prenez quelqu'un d'autre avec vous. Et s'il ne veut pas écouter cela, alors que l'Église le libère. Jésus dit, ce que vous délirez sur la terre, je le délirerai dans les cieux. Ce que vous liez sur la terre, je le lierai dans les cieux. C'est le lien de l'Église. Ici, il n'y a pas longtemps, un bon prédicateur de mes amis, il avait un garçon. Et ce garçon avait été à l'église, sa propre église. Puis, il commença à courir après une vieille petite fille qui fumait, buvait et faisait la fête. Le prédicateur dit, bien sûr, c'est son affaire. Un de mes très bons amis est un bon garçon. Mais il devint tout affolé avec quelques jeunes femmes. Elle avait été mariée, elle avait des enfants, son mari était en vie. Il avait peur que ce garçon la marie. Ainsi ce frère était tout malheureux et il me dit, « Frère Branham, je voudrais que vous alliez vers un de mes certains garçons, je voudrais que vous lui parliez. » Je dis, « Frère, oh, j'ai presque dit son nom. Vous avez un meilleur moyen, ne m'envoyez pas. Si le garçon ne vit pas la vie qu'il devrait, et l'Église l'a vu faire mal, alors c'est à l'Église de régler cette affaire. C'est à l'Église de le faire, et l'Église va lui dire. » Ainsi il prit un frère et il alla lui dire, et il répliqua au frère, lui disant que lui-même n'avait qu'à s'occuper de ses affaires, qu'il devait faire la même chose. Il prit un autre frère, deux de plus, deux diacres, ils allèrent parler aux garçons. Ils ne voulaient pas les écouter. Ils le dirent à l'église. Et il ne vint pas pendant plusieurs soirs pour être réconcilié à l'église. Après que son péché fut déclaré devant l'église, alors l'église le délia. Et environ un mois après, il fut frappé par une pneumonie, et le docteur dit, il n'y a aucune chance au monde qu'il vive. Alors, il revint en rampant. Dieu sait comment s'y prendre. Nous essayons de le faire nous-mêmes. Oh, vous devriez sortir un tel de l'église. Vous devriez faire ceci, cela et cela. Avez-vous fait votre part en tant qu'église concernant cela? Voilà, vous y êtes. C'est la manière de les faire revenir en rampant. Livrez-les une fois au diable. Qu'est-ce que Paul a dit concernant cet homme qui vivait avec sa belle-mère? Il ne pouvait pas le réconcilier. Il dit, livrez-le au diable. Et observez ce qui se passe. Dans la lettre suivante que Paul écrivit, cet homme était de nouveau en ordre. Certainement, Dieu a une manière de faire les choses si nous voulons simplement suivre ses règles. Et si quelque chose ne va pas dans l'église, si c'est parmi l'assemblée, chacun de vous, frères, qui êtes au conseil des diacres, un de vous, diacre, ne se conduit pas bien, les autres diacres viennent et ont une réunion et essayent de réconcilier le frère. Dites-lui ce qu'il fait, ou un de vous, membres, quoi que vous soyez. Alors cela doit être apporté devant lui. Et s'il ne veut pas le faire, alors dites-le au pasteur. Alors il est délié de l'église, et alors qu'il soit comme un païen et un publicain. Alors observez, le Seigneur va travailler avec lui, voyez? Voilà quand il revient lui-même, voilà quand il revient en rampant. Mais nous essayons de le faire nous-mêmes, vous savez, nous essayons de faire le tout de la manière que nous devrions le faire. Maintenant, nous n'avons jamais de succès. Maintenant, ce Melchisédek, le roi de Salem, le prêtre du Très-Haut, qui rencontra Abraham et le bénit, et lui donna ses dîmes, Abraham le fit, et il était le roi de Salem. Et il apporta du pain et du vin, la communion, elle la donna à Abraham après la bataille, après que l'homme ait été de nouveau gagné. Maintenant, toutes les guerres, comme je l'ai dit, sont combattues pour des principes. Maintenant, si vous avez une petite guerre dans l'Église, cela doit être les vrais principes. Vous devez vous battre pour la chose juste. Et chaque membre de l'Église est supposé faire cela. Maintenant, cet enseignement est pour l'Église. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi je me tiens ici. Voilà pourquoi la parole de Dieu est là. C'est pour l'Église. Ne laissez jamais rien retarder l'Église. Si cela arrive, vous êtes coupables, chacun de vous. Et vous, dans vos différentes églises, si quelque chose va mal dans votre église, vous êtes coupable parce que vous êtes le surveillant de cette église. Ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas au conseil des diacres, c'est à vous, vous individuellement, d'aller vers ce frère et essayer de le réconcilier. Sinon, alors prenez deux ou trois avec vous et revenez. Et s'il ne veut pas entendre cela, dites-le à l'église. Alors, il est congédié du royaume de Dieu. Dieu a dit, si vous le congédiez là, je le congédierai ici. Et si vous êtes passé par cet ordre, alors il tournera le diable tout à fait librement contre lui pour la construction, la destruction de sa chair. Et alors il reviendra, c'est juste. C'est la manière de faire revenir ce frère. Et s'il ne le fait pas, il continuera et alors le diable l'enverra vers sa destination éternelle. Maintenant, les motifs pour cela. Si vous en prenez seulement à quelqu'un, alors c'est différent. Mais si l'homme est coupable, et Lot était descendu et avait récidivé, il était dans la grâce, mais en était déchu. Et quand il sortit, et Lot était sauvé. Ne pensez jamais que Lot n'était pas sauvé, car il l'était. Parce que tout le temps, quand il était dans la mauvaise place, la Bible dit que les péchés de Sodome faisaient du mal à son âme quotidiennement. Maintenant, sa chair était une chose, faisait une chose, et que fut sa fin? Il apporta plus de disgrâce. Sa femme se tourna en une statue de sel, il eut des enfants par ses filles, ainsi vous pouvez voir quelle disgrâce il apporta, parce qu'il était déchu de la grâce et il ne fut jamais restauré. Et Dieu dut le reprendre de la terre. Mais tout de même, il était un frère déchu. Et Abraham fit tout ce qu'il pouvait faire pour le ramener. Et l'esprit qui était en Abraham, c'est l'esprit de Christ qui est dans l'église aujourd'hui. Qu'importe ce qu'a fait le frère, vous ferez tout ce que vous pouvez pour le ramener de nouveau dans la communion de Christ. Qu'importe ce qu'il a fait, vous essayerez vraiment. Maintenant, nous voulons remarquer, ici de nouveau, maintenant, comme nous avançons avec cette leçon sur Melchisédek, ce grand prêtre de Salem, le possesseur des cieux et de la terre. Maintenant, premièrement, il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, est rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre à perpétuité. Observez maintenant. Il n'était pas le Fils de Dieu. Il était le Dieu du Fils. Il n'était pas le Fils de Dieu. Melchisédek ne l'était pas. Mais il était le Père du Fils de Dieu. Maintenant, ce corps qu'il avait créé, n'avait pas été apporté par une femme. Ainsi, avec ce corps créé, il ne pouvait pas. Quel corps? Il l'avait fait lui-même pour se révéler. Aucun homme ne peut jamais voir Dieu. Dieu est esprit. Les yeux mortels ne voient pas ces choses, à moins que cela soit dans la forme de quelque être qu'ils ont vu dans des visions, ou comme la colonne de feu, ou quoi que ce soit. Mais Dieu doit se révéler d'une manière quelconque. Et Dieu se révéla à Abraham sous la forme d'un homme. Il se révéla à Moïse sous la forme d'un homme. Il se révéla aux enfants d'Israël sous la forme d'une colonne de feu. Il se révéla à Jean-Baptiste sous la forme d'une colombe. Voyez-vous, il devait se révéler dans ses formes. Et quand il se révélait sous la forme d'un homme, comme roi de Salem, de Jérusalem, pas de la Jérusalem terrestre, mais de la Jérusalem céleste, il se révéla dans cette forme, il fut fait comme le Fils de Dieu. Maintenant, le Fils de Dieu doit venir par une femme, pour être créé ici, par le sein d'une femme, parce que par cette même chose vient la mort. Et il ne pouvait pas venir par création, comme Dieu le fit au commencement. Quand Dieu fit l'homme au commencement, les femmes n'avaient rien à faire avec cela. Dieu dit simplement que cela soit, et l'homme vint de la poussière. Il l'appela sans qu'aucune femme n'ait quelque chose à faire avec cela. Mais la femme alors était dans l'homme, et Dieu prit la femme du côté d'Adam. Est-ce juste? Et alors la femme vint, et elle amena l'homme par le sexe. Ainsi, la seule manière que Dieu pouvait agir, c'était, il ne pouvait pas venir dans cette théophanie. Il ne pouvait pas venir comme Melchisédek, il devait venir comme un homme, et il devait venir par la femme. Ta semence blessera la tête du serpent, et sa tête blessera son talon. Le comprenez-vous? Dieu devait venir par une femme, et il le fit quand il habita dans son corps de son Fils Jésus-Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et il offrit son propre sang comme sacrifice, et il donna sa vie, afin que par le canal de la mort, il puisse vous sauver dans la vie éternelle. Ainsi, Dieu vint alors, et il fut fait comme le Fils de Dieu. Voyez, il était un homme rendu semblable au Fils de Dieu. Maintenant, il ne pouvait pas être le Fils de Dieu, parce que cet homme est éternel. Et le Fils de Dieu a eu un commencement, il a eu une fin, il a eu un temps pour naître, il a eu un temps pour mourir. Il eut un commencement et une fin, il eut et un père et une mère, mais cet homme n'eut ni père ni mère, commencement ou fin. Mais il fut rendu, cet homme Melchisédek fut rendu semblable au Fils de Dieu. Maintenant, le Fils de Dieu, quand il vint dans le monde, sous la forme d'une femme, par une femme, sous la forme d'un homme, il fut tué, il ressuscita de nouveau le troisième jour, il ressuscita pour notre justification, et maintenant, il demeure pour toujours. Et aussi longtemps que ce corps demeure, nous demeurons aussi. Et parce qu'il ressuscita de la poussière, nous ressusciterons semblables à lui. Voilà l'histoire de l'Évangile. Béni soit le nom du Seigneur. Pas des anges, pas des êtres surnaturels, pas une poignée de plumes pour voler, mais des hommes et des femmes. Amen. Se tenant comme lui. Oui, monsieur. Comme je vous l'ai souvent dit, je le dis de nouveau maintenant, il semble que cela soit propice. J'étais en train de peigner les 5 ou 6 cheveux qu'il me reste. Et ma femme dit, « Billy, tu deviens chauve. » Je dis, « Mais je n'en ai perdu aucun. » Elle dit, « Où sont-ils ? » Je dis, « Dis-moi, où étaient-ils avant que je les aie ? Je te dirai où ils m'attendent, c'est juste. » Et une fois, j'étais un boxeur, un pugiliste. J'étais fort et grand, et je me sentais que si vous aviez mis cette église sur mon dos, je serais descendu la rue avec elle. Je vous le dis, quand je me lève chaque matin maintenant, je réalise que plus de 40 ans se sont passés depuis lors, voyez ? Je ne suis pas ce que j'étais, je faiblis chaque jour. Et comme je regarde à mes mains et pense, regarde ici, bien, je deviens vieux. Je regarde à mes épaules, je vois que j'ai pris beaucoup de poids. Et une fois, j'avais comme taille 28, maintenant je prends du 30. Voyez, je deviens vieux, je deviens gras, je m'en vais en diminuant. Qu'est-ce ? Je mange la même chose que je mangeais. Je vis plus propre et mieux que je vivais alors, la même chose. Mais Dieu a appointé un temps pour moi et je dois le recevoir. Mais la pensée bénie est qu'à ce jour-là, il me ressuscitera à nouveau. Et tout ce que j'étais quand j'avais 25 ans, je le serai de nouveau pour toujours. Amen. Vous y êtes. Qu'est-ce que le vieillage peut bien me faire? J'y battrai le diable pour des années et des années. Sachant ceci, que je le crois, ceci n'est de toute manière qu'un court espace de temps. Si nous restions seulement 70 ans notre temps promis, ce n'est rien d'autre que de la misère et de douleur. Qu'est-ce ? Échangeriez-vous cette maison de tourment contre cette chose glorieuse en l'au-delà ? Pourquoi ? Béni soit le nom du Seigneur. Quelque chose au-dedans de moi rencontra ce Melchisédek un jour. et il me parla de paix, et il me donna la vie éternelle. Et cette vie ne signifie pas plus qu'un tabernacle par lequel je prêche l'Évangile. Je dis ceci avec grande sincérité, avec ces deux Bibles ouvertes devant moi. Si mon Dieu avait terminé de m'employer pour prêcher l'Évangile, et que je ne pourrais plus rien faire pour lui, mes enfants seraient assez grands pour s'occuper d'eux-mêmes. S'il veut me prendre juste maintenant, amen, c'est en ordre. Oui, monsieur, quelle différence cela fait si j'ai 80 ans ou si j'ai 20 ans? Je ne suis ici que pour une chose, pour servir le Seigneur, c'est tout. Et si je peux encore prêcher l'Évangile comme je le fais maintenant, quand j'ai 80 ans, quelle différence cela fait si j'ai 40 ou 80 ans? Il y a beaucoup d'hommes qui ont 80 ans ce soir, et il y a beaucoup d'enfants qui mourront alors qu'un homme de 80 ans vivra plus longtemps qu'eux. Quelle différence cela fait? Ce sont vos motifs, vos principes, et nous sommes ici pour servir le Seigneur Jésus. C'est tout. Sachant cela, que cette vie est une vapeur, ce dont un homme parle. C'était une fois, et puis cela n'est plus. Mais si nous avons la vie éternelle, Dieu a promis qu'il nous ressuscitera de nouveau. Et nous prendrons la communion avec lui quand les jours seront finis. Et quand il dira, entre dans la joie du Seigneur qui a été préparée pour toi depuis la fondation du monde. Alors, quelle différence cela fait ici? Si nous avons quelque chose ou si nous n'avons rien? Si nous sommes jeunes ou vieux? Quelle différence cela fait-il? La chose la plus importante, êtes-vous prêt à le rencontrer? L'aimez-vous? Pouvez-vous le servir? Êtes-vous complètement débarrassé des choses du monde? Avez-vous rencontré Melchisédek depuis que la bataille est finie? Béni soit Dieu. J'avais environ 21 ans, et un jour, j'ai eu une bataille avec ceci, cela et l'autre. Je ne pouvais pas me décider si je voulais devenir un boxeur, ou si je voulais être un trappeur, un chasseur, ou ce que je voulais être. Mais j'ai rencontré Melchisédek, et il m'a donné la communion, et depuis, cela a été en ordre pour toujours. Alléluia! Je suis allé de son côté, je me suis réjoui sur le chemin, et quand viendra la fin de la route, et que la mort me regardera en face, comme je me sens maintenant, je n'en serai jamais épouvanté. Je veux savoir, avançant vers elle, en face, sachant ceci, que je connais celui qui a fait la promesse, c'est juste, que je le connais dans la puissance de sa résurrection. Et quand il appelle parmi les morts, je sortirai du milieu d'eux, c'est juste, le connaissant dans la puissance de sa résurrection. Quelle différence cela fait si je suis vieux ou si je suis jeune, si je suis petit ou si je suis grand, si je suis plein ou si j'ai faim, si j'ai un endroit pour me reposer ou pas? Les oiseaux du ciel ont des nids et les renards des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour reposer sa tête. Mais il était le roi de la gloire. Nous sommes des rois et des prêtres ce soir. Quelle différence cela fait si nous avons ou si nous n'avons pas? Aussi longtemps que nous avons Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes dans la présence de Dieu, dans la communion du Saint-Esprit, prenant la communion spirituelle des mains de celui qui témoigna, « Je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie, et je suis vivant à jamais. » Ainsi ensemble, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, « Oh, béni soit son saint nom !» Quelle différence la fait-il? Une tente ou un chalet, que m'importe, ils bâtissent un palais pour moi là-bas, fait de rubis et de diamants et d'argent et d'or, ses coffres sont pleins, il a des richesses inconnues. Je l'ai rencontré un jour, quand je suis revenu de la bataille, j'ai déposé mes trophées, je n'ai jamais plus fait une bataille depuis, il les combat pour moi, je veux seulement reposer sur sa promesse, sachant ceci, que je le connais dans la puissance de sa résurrection. C'est tout ce qui compte. Quoi d'autre importe? Que pouvons-nous faire? Que vous importe si vos cheveux sont frisés ou si vous en avez ou pas? Quelle différence la fait-il? Si vous êtes vieux, si vous êtes gris, si vos épaules tombent ou pas, quelle différence la fait-il? Amen! C'est seulement pour un temps, un petit espace de temps. Mais là-bas, c'est pour toujours et toujours. Et comme les eaux du temps continuent à passer et les âges passent, vous ne changerez jamais. et vous êtes à travers ces incessants âges éternels. Quelle différence cela fait-il? Je suis si content de l'avoir rencontré. Je suis si content qu'un jour, il me donna la communion. Ce même Melchisédek qui rencontra Abraham, revenant du massacre des rois, certainement, le Dieu du ciel, le El Elyon, le glorieux Je suis, pas j'étais, le Je suis, tant présent, et il le bénit. Écoutez ici seulement un peu plus loin, afin que nous puissions saisir la leçon ensemble d'un peu plus près. Maintenant, le 4e verset. Mais considérez combien était grand celui, je pense justement cela aussi, considérez combien était grand, il est au-delà du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu avait père et mère, lui n'en avait pas. Le Fils de Dieu a eu un commencement de temps et une fin de temps, lui n'en eut pas. Qui était-ce? C'était le Père du Fils. Voilà qui il était. Considérez combien était grand celui à qui Abraham lui-même, le patriarche, donna la dîme du meilleur butin. Écoutez attentivement maintenant. Et ceux d'entre les fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont bien le commandement de dîmer le peuple selon la loi, c'est-à-dire leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Maintenant, observez ceci si vous voulez voir quelque chose. Mais celui qui ne tire pas généalogiquement son origine d'eux a dîmé Abraham et a béni celui qui avait les promesses. Abraham avait la promesse et cet homme bénit Abraham qui avait la promesse. Qui était-ce? Les fils de Lévi payèrent les dîmes à leurs frères ou leurs frères leur payèrent la dîme. Ils avaient un commandement du Seigneur de prendre un dixième de ce que leurs frères gagnaient pour vivre, parce qu'ils étaient le sacerdoce. Maintenant, cela enlève le sacerdoce de Melchisédek dont vous parliez juste ici, c'est juste. Mais cet homme, même celui qui avait la promesse, le plus grand homme sur la terre, Abraham, rencontra cet homme et lui paya la dîme. Il devait être plus grand. Écoutez. Or, sans contredit, le moindre est béni que celui qui est plus excellent. Certainement, regardez qui il est. Et ici, des hommes qui meurent reçoivent des dîmes. C'est le sacerdoce, l'ordre des prêtres, les prédicateurs et ainsi de suite. Les hommes qui reçoivent la dîme meurent, vous voyez. Mais là, celui de qui il est rendu témoignage qu'il est vivant. Pourquoi un homme prendrait-il la dîme s'il n'était jamais né et ne mourra jamais et était du commencement à la fin et n'eut jamais ni père ni mère ou de descendants et il possédait tous les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme? Pourquoi prendrait-il la dîme? Pourquoi demanderait-il à Abraham de payer la dîme? Voyez-vous quelle chose sérieuse cela est de payer les dîmes? Les dîmes sont justes. Chaque chrétien a le devoir de payer sa dîme. C'est juste. Cela n'a jamais été changé. Maintenant, et pour ainsi dire, Lévi même, qui reçoit des dîmes, a été dîmé en Abraham. Maintenant, oh, voici quelque chose. Car il était encore dans les reins de son père quand Melchisédek alla à sa rencontre. Quoi? Lévi. Abraham était l'arrière-arrière-grand-père de Lévi. Et la Bible dit ici que Lévi paya sa dîme quand il était dans les reins d'Abraham. 4 générations avant qu'il ne vienne sur la terre, il paya la dîme à Melchisédek. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, vous qui ne pouvez pas croire à la prédestination avant l'ordination, ici 4 générations avant que Lévi ne puisse jamais sortir des reins d'Abraham, il paya la dîme à Melchisédek. J'aimerais avoir le temps de tracer cela à travers les Écritures. Si vous preniez par exemple Jérémie, chapitre 1er, verset 4, Dieu dit, « Je t'ai connu avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, et je t'ai sanctifié et t'ai ordonné prophète des nations. » Ainsi, Que pouvez-vous dire avec avoir fait? Qu'est-ce que je peux dire avoir fait? C'est Dieu qui montre sa grâce. Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Il ne désire qu'aucun périsse, certainement pas. Mais s'il est Dieu, il savait qui serait sauvé et qui ne serait pas. Ou alors il ne savait rien du tout. Et s'il ne savait pas qui serait dans l'enlèvement avant que le monde ne fût créé, alors il n'est pas Dieu. Mais s'il est infini, il connaît chaque puce, chaque mouche, chaque poux, chaque insecte qui serait jamais sur la terre, avant que la terre ne fût formée. C'est juste. Il connaissait toutes choses. Avant la fondation du monde, il nous connaissait. La Bible dit cela. Il nous connaissait et nous prédestina. Réglons cela une fois pour toutes. Retournons aux Éphésiens, le premier chapitre, le premier chapitre des Éphésiens, juste un moment. Je veux lire ici, juste pour une minute, afin que vous puissiez vraiment comprendre que ce n'est pas seulement quelque chose que j'essaye de vous dire, mais c'est quelque chose que Dieu essaye de vous dire. Voyez, maintenant écoutez ceci très attentivement, premier chapitre des Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Le même homme qui a écrit la lettre aux Hébreux écrit cette lettre. Aux saints, ce n'est pas aux incroyants, mais aux saints, les saints, ceux qui sont sanctifiés, et fidèles dans le Christ Jésus qui sont à Éphèse. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, maintenant, écoutez attentivement maintenant, le quatrième verset. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Qui est le « nous » là? C'est l'Église. Il nous a élus, Christ, avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui, en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Qui l'a fait? Dieu l'a fait. Dieu connaissait depuis le commencement qui serait sauvé et qui ne serait pas. Certainement, il ne désirait qu'aucun ne périsse. Mais il n'a pas envoyé Jésus ici seulement pour voir si vous agiriez en disant « Oh, pauvre Jésus, j'ai de la peine pour lui, peut-être que je ferais mieux d'être sauvé et de l'approuver. » Non, monsieur, Dieu savait au commencement qui le serait et qui ne le serait pas. Ainsi, il savait qu'il y en a qui le seraient. Ainsi, il envoya Jésus pour faire une propitiation pour ceux qu'il avait préconnus, pour ceux qu'il a préconnus, il a appelé, et ceux qu'il a appelés, il a justifié. Ceux qu'il a justifiés, il les a, au passé, glorifiés. Vous y êtes. Ainsi, ce n'est pas vous qui vous tenez vous-même, c'est la grâce de Dieu qui vous tient. Vous ne vous êtes pas sauvés, ou vous n'avez rien fait pour mériter d'être sauvés. C'est la grâce de Dieu qui vous sauve. La grâce de Dieu qui vous a appelé, la préconnaissance de Dieu qui vous connaissait. Il savait que vous seriez dans cette église ce soir avant que la fondation du monde ne soit posée, car il est infini. Et s'il ne l'est pas, il n'est pas Dieu. S'il ne connaissait pas toutes choses, alors il n'était pas Dieu. S'il ne connaissait pas toutes choses, il n'était pas Dieu. Et s'il est le Dieu Tout-Puissant, il peut faire toutes choses. Et s'il ne peut pas faire toutes choses, il n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Vous y êtes. Ainsi, comment pouvez-vous dire que c'est quelque chose que vous pourriez faire? Ce n'est rien que vous pouvez faire. C'est l'amour et la grâce de Dieu pour vous, vous-même, que vous soyez ici. Rien que vous puissiez faire. Dieu vous appela par sa grâce. Et vous avez écouté, entendu et accepté. Bien, vous dites, frère Branham, cela rend tout vraiment libre. Certainement, vous êtes libre. Bien, alors ce garçon peut faire tout ce qu'il veut. Certainement. Je fais toujours ce que je veux faire, mais si vous êtes un chrétien, vous ne voulez pas mal faire. Il y a une petite vieille dame assise là derrière ce soir, ma femme. Je l'aime avec tout ce qu'il y a en moi. Et si je savais que je puisse sortir avec une autre femme sans me faire prendre et aller lui dire, Méda, j'ai mal fait, croyez-vous que je le ferais? Si je l'aime correctement, je ne le ferai pas, c'est juste. Maintenant, si je disais, oh, je ne peux pas le faire, parce que je vais vous dire pourquoi, elle divorcerait avec moi, j'ai, oh, je suis un prédicateur, voyez ce que cela ferait, cela me sortirait de la chair, si elle divorçait avec moi, un homme divorcé, oh, j'ai 3 enfants, je ne pourrais pas penser à cela, mais je, bien, si c'est de cette manière-là, alors vous êtes encore légaliste. Je ne l'ai pas marié sur une base légale. Ce n'est pas à cause d'une base légale que je lui suis fidèle. C'est parce que je l'aime. Je n'ai rien à faire. Je le fais volontairement parce que c'est une affaire d'amour. Et si vous aimez votre femme, vous ferez la même chose. Et si vous aimez votre femme comme cela, avec l'amour philéo, que devriez-vous faire pour Christ avec l'amour agapao, qui est 1 million de fois plus fort? Si vous aimez vraiment Christ, si je savais ce soir que je puisse sortir et m'enivrer, si je savais ce soir que je puisse sortir et être immoral, si je savais ce soir, même si c'était dans mon cœur de le faire et que j'aille le faire, sachant qu'il me pardonnerait, je ne le ferai pas parce que je pense trop de lui. Je l'aime, sûr, certainement. Voilà la raison pour laquelle je ne vendrai pas mon expérience à aucune dénomination. Non, monsieur. Pas les assemblées de Dieu, pas l'église de Dieu, pas les pèlerins de la sainteté, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les catholiques. Je ne prendrai rien qui puisse être offert pour cette expérience, parce que cela ne vient pas par l'homme, cela vient par Dieu. Non, monsieur, je ne voudrais pas vendre mon droit d'aînesse pour aucun rock and roll d'Elvis Presley, ou pour sa série de catholiques, ou ses Cadillacs, ou ses millions de dollars, et ainsi de suite, qu'il reçoit chaque mois. Non, monsieur, je l'aime. Et si je... Aussi longtemps que je l'aime comme cela, je lui resterai fidèle. Et si Dieu m'a appelé et m'a élu, il a placé quelque chose en moi, et je l'aime. Je me rappelle, monsieur Hitler, vous le connaissez tous, presque tous. Il est venu ici, un sénateur de l'État de l'Indiana. Il est venu ici pour jouer de la guitare. Et quand mon bébé mourut, et ma femme mourut, ils sont tous étendus là au cimetière. Je montais la rue avec mes mains derrière moi, pleurant. Il sauta de son vieux petit camion et il va mettre ses bras autour de moi et dit, « Billy, je veux te poser une question. » Il dit, « J'ai entendu dire que tu prêches jusqu'à ce que tu sois prêt à tomber de la chair. Je t'ai entendu au coin des rues et toutes ces choses criant pour Christ. » Il dit, « Maintenant, il a pris ton papa, il a pris ton frère. Il les a saisis tous les deux et ils moururent dans tes bras. Là, ils moururent. Ta femme mourut te tenant la main et ton bébé mourut. » Et tu l'appelles pour t'aider, et il te tourne le dos. Que penses-tu de lui? Je dis, je l'aime, avec tout ce qu'il y a en moi. S'il m'envoie en enfer, je l'aimerai quand même. Il est juste, je ne dis pas cela. 26 ans l'ont prouvé, c'est juste, si vous l'aimez. Pas un devoir que je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Non, vous l'aimez trop pour le faire, parce qu'il vous a choisi. Vous ne l'avez jamais choisi, il vous a choisi. Vous dites, j'ai cherché le Seigneur, et cherché le Seigneur. Aucun homme ne cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Vous pouvez chercher une faveur auprès de lui, mais Dieu doit changer votre nature avant que vous ne puissiez même le chercher. Parce que vous êtes un pécheur, vous êtes un pauvre, c'est juste. Et parmi vous, des gens allant à l'église, vivant seulement par votre qualité de membre, puis vous sortez, vous faites tout ce qui est du monde, et puis vous revenez de nouveau et vous dites, j'appartiens à l'église. Bien, c'est bien loin d'appartenir à Dieu, certainement. Mais vous voyez, des gens faire cela, vous pouvez le dire. Oh, ce sont de bons membres d'église. C'est juste, vous pouvez encore être un membre d'église et faire ces choses. Mais vous ne pouvez pas être un chrétien et les faire. Comme je l'ai dit ce matin, le vieux corbeau, s'il n'y a jamais eu un hypocrite, c'est le corbeau, c'est juste. Lui et la colombe étaient dans la même arche, ils étaient sur le même perchoir, et le vieux corbeau fut satisfait quand il fut libéré, et qu'il sortit de cette église, et qu'il pouvait sortir et se tenir sur une vieille carcasse morte, et croit, croit, et il mangeait un petit peu de ceci, il mangeait du cheval, il mangeait de la vache, ou quoi que ce soit, il était satisfait. Mais quand Noé libéra la colombe, elle ne put trouver où reposer la plante de ses pieds. Elle avait autant le droit de se poser sur un animal mort que le corbeau ne l'avait, mais c'était des natures différentes. Une, c'était une colombe pour commencer, et c'était un corbeau pour commencer. Mais si vous remarquez, le vieux corbeau,
Il peut se poser ici sur une carcasse morte et il mange une demi-journée. Et la colombe se posera sur un champ de blé et manger une demi-journée. Et le corbeau peut s'envoler là-bas et manger la nourriture que la colombe mange. Autant qu'il veut, il pourrait manger autant de blé que le corbeau ne le peut, que la colombe ne le peut. Mais lui, le corbeau, il peut manger de la nourriture de colombe, mais la colombe ne peut pas manger de la nourriture du corbeau, c'est juste. Ainsi, un vieil hypocrite, il peut venir à l'église et se réjouir, et crier, louer le Seigneur, et continuer comme cela, et se retourner et apprécier les choses du monde. Mais un chrétien né de nouveau, il ne peut pas le faire, parce que l'amour de Dieu le tient à une certaine place qu'il ne peut pas le faire. Ainsi, si vous êtes seulement un chrétien parce que vous êtes joint à une église, et que vous avez arrêté de faire ceci et cela, et que vous avez toujours ce même désir en vous, vous avez besoin d'une autre plongée, c'est exactement juste. Et vous, femmes, qui pouvez mettre ces vieux petits shorts, ici même dans les rues, et alors vous appelez encore une croyante. Vous êtes une croyante, mais vous en êtes un piètre exemple peut-être. Si vous aviez vraiment Christ dans votre cœur, vous n'auriez pas à penser à de telles choses. Que m'importe ce que fait le reste des femmes, le reste des filles, vous seriez différentes parce que vous aimez trop Christ. Je parlais à une femme l'autre jour, dans une maison. Elle leva ses mains comme cela pour... Elle dit, « Oh, révérend Branham, je suis presque nu ici dans ma maison. Je marche par ici. Je pensais, honte à vous, dans votre propre maison, peu importe où vous soyez. C'est juste. Habillez-vous et agissez comme une femme, comme une dame doit le faire. Honte à vous. Mais vous gardez, et la Bible dit, si vous aimez ces choses et les choses du monde, l'amour de Christ n'est même pas en vous. Et si vous aimez le Seigneur avec tout votre cœur, avec toute votre âme, avec tout votre esprit, vous garderez ces vieilles petites choses sales loin de vous, c'est juste. Et vous, diacres, et vous les autres ici, qui allez dans les rues ici et tendez votre cou, et regardant à chacune de ces femmes, honte à vous, et vous vous appelez fils de Dieu? Oh, je sais que cela cuit, mais c'est, il vaut mieux que cela cuise que de brûler là-bas dans l'enfer pour toujours. Ainsi, si vous faites ces choses, maintenant, vous ne pouvez rien y faire si une femme passe dans la rue à moitié vêtue. Vous, si vous regardez, vous pouvez peut-être la voir, mais vous pouvez encore tourner votre tête. La Bible dit, celui qui regarde une femme pour flirter avec elle a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Laissez-moi vous dire quelque chose, chère sœur. Vous allez avoir à répondre. Cela m'est égal. Vous pouvez être aussi pur qu'un lys. Vous pourriez n'avoir jamais commis un péché de cette sorte, un péché immoral dans votre vie. Mais si vous vous habillez comme cela, vous allez répondre au jugement comme ayant commis l'adultère avec chaque homme qui vous a regardé. C'est ce que la Bible dit. Et passez dans la rue, à qui la faute? À l'homme? Non, monsieur. Vous l'êtes. Vous vous êtes présenté de cette manière-là. Et la femme tient une grande place, une place magnifique, belle et sacrée. Mais elle doit se tenir de cette manière, pour tenir sa fonction comme elle doit, comme une mère, comme une femme, et dans l'état de femme. Quand l'état de femme seront, l'épine dorsale de n'importe quelle nation seront. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui notre nation est ruinée. C'est à cause de l'immoralité de nos femmes. C'est exactement juste, certainement. C'est la pourriture parmi nous qui rompt tout cela. Ce qu'il vous faut, c'est de rencontrer ce Melchisédek une fois. Amen. Et laissez-le vous bénir et vous donner le vin et le pain à la vie éternelle. Alors vous verrez les choses différemment. Alors vous, cela sera différent. Vous ne voudrez pas que les garçons vous sifflent. Le sifflet du renard ou quoi que ce soit que vous l'appeliez. Certainement pas. Vous serez différente. Et vous voulez me dire que vous vous habillez de cette manière et allez là-dehors pour autre chose? Vous dites, oh, mais c'est plus frais. Vous racontez des histoires. Ce n'est pas plus frais. La science prouve que vous n'avez pas moins chaud. C'est la luxure qui est tombée sur vous, sœur. Vous ne le réalisez pas. Je n'essaye pas de vous blesser. J'essaye de vous prévenir. Beaucoup de femmes morales, aussi propres qu'elles puissent l'être, se promènent avec ces choses dans la rue, inconscientes de savoir ce qu'elles font. Parce que quelque prédicateur récidiviste a peur que votre mari ne paye plus ses dîmes dans l'église. S'il avait jamais rencontré Melchisédek, il ne penserait pas à ces choses. Il prêcherait l'évangile. Et si cela brûlait la peau de leur dos, il le prêcherait quand même. C'est exactement juste. Vous le faites. Et vous le faites parce qu'un esprit de luxure qui est sûr, et vous, hommes, qui laissez vos femmes faire ces sortes de choses, j'ai peu d'espoir en vous comme hommes. Et c'est juste, c'est juste. Maintenant, il n'y a pas de compliment en cela, ils appellent, ou pas d'excuses, parce que c'est la vérité. N'importe quel homme qui laissera sa femme aller dans la rue et agir comme cela, frère, vous devriez porter ses habits. Oui, pourquoi? Mou! Je ne dis pas que ma femme ne le fera pas, mais je dois être changé et perverti de ce que je suis maintenant si je vis jamais avec elle alors qu'elle le fait. Et c'est exactement juste. Mes filles, elles le feront peut-être quand elles seront devenues femmes. Je ne dis pas qu'elles ne le feront pas, je ne sais pas. C'est selon la grâce de Dieu. J'espère que non, mais si elles le font, elles marcheront sur les prières d'un père juste. Elles marcheront sur la vie de quelqu'un qui a essayé de vivre juste, si elles le font jamais, c'est juste. Mais je veux vivre juste, enseigner juste, être juste et les instruire juste. Et si elles font cela, elles gagneront l'enfer, au-dessus de ma prédication et au-dessus de mon Christ et au-dessus de mes avertissements. C'est juste. Et si elles le font jamais, certainement, c'est juste. Honte à vous, si vous rencontrez jamais Christ face à face, et qu'il vous bénisse, et qu'il mette ce baiser d'approbation sur votre cœur, tous les diables de l'enfer ne pourront jamais vous les faire mettre de nouveau. C'est juste. Vous avez changé de la mort à la vie, et vos affections sont fixées sur les choses d'en haut, et pas sur les choses de la terre. Amen. Je ferais mieux de laisser ce sujet. C'est délicat, très bien, mais c'est la vérité. Très bien, comme nous avançons un peu plus loin, puis nous terminerons. Ceux des fils de Lévi, qui reçoivent le sacerdoce, ont d'après la loi l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. Mais lui, bien qu'il ne fût pas de leur lignée, il préleva la dîme sur Abraham. Il bénit le détenteur de la promesse. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et tandis qu'ici, ce sont des hommes mortels qui reçoivent les dîmes, là, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Enfin, Lévi qui reçoit les dîmes, là, pour ainsi dire, payé par Abraham, car il était encore dans les reins de son père quand Melchisédek alla à sa rencontre. Votre attitude vis-à-vis de Christ fera une grande impression sur ce que seront vos enfants. Votre vie que vous vivez devant votre famille fera une impression sur ce que seront vos enfants. Parce que la Bible dit qu'il visitera l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Maintenant, juste un petit moment avant de conclure. Si donc la perfection, voici de nouveau notre perfection, avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car sous lui, celui-ci, le peuple reçut la loi, quel besoin y avait-il encore qu'un autre prêtre paraisse selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron? La loi, le légalisme, vous voyez? Ah, vous devez faire ceci, si vous ne faites pas ceci, vous n'êtes pas un chrétien. Et si vous ne gardez pas le sabbat, si vous mangez de la viande, si vous faites ces choses, toutes ces idées légales, et vous devez aller à l'église. Si vous ne le faites pas, vous recevez une punition pour cela. Vous devez faire une neuvaine. Ces choses n'ont pas de sens. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, par la préconnaissance de Dieu, par sa prédestination. Amen. Dieu a appelé Abraham par prédestination, par préconnaissance. Il appela. Il haïssait Ésaü et aimait Jacob avant qu'aucun d'eux ne fût né. C'est juste. C'est la préconnaissance de Dieu qui connaît ces choses. Vous dites alors, pourquoi prêcher l'évangile? Maintenant, je vous dis ceci. Paul répondit à cela, ou plutôt Jésus le fit. Voici Jésus, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui alla vers un étang ou un lac, et il jeta son filet, et il le retira. Et de là il sortit des tortues, des serpents, des lézards, des grenouilles, des araignées, et des poissons. Maintenant, l'homme jette seulement son filet, c'est comme l'évangile. La voici ici, je prêche l'évangile, je ne fais que jeter le filet et je le tire. Je dis que tous ceux qui veulent viennent, et en voici qui viennent ici à l'autel. Ils sont tous autour de l'autel, ils prient et ils pleurent. Je ne connais pas l'un de l'autre, ce n'est pas mon affaire. Je n'ai pas été envoyé pour juger. Mais il y en a là-dedans qui sont des grenouilles, il y en a qui sont des lézards, il y en a qui sont des serpents, il y en a qui sont des tortues, et il y en a qui sont des poissons. Ce n'est pas mon affaire de juger. Je dis, Père, voici ce que j'ai sorti. Mais la grenouille était une grenouille pour commencer. L'araignée, la vieille araignée se tiendra là et regardera tout autour d'elle pendant un petit moment, battra ses grands yeux, regardera tout autour et dira, vous savez quoi? J'ai autant de ceci que je puisse en supporter. Plop, 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 ils sortiront. La vieille dame serpent, elle lèvera sa tête, elle dira, vous savez quoi? S'ils veulent prêcher comme cela contre maître des shorts et ces choses, pas d'accord. Ainsi je veux sortir de cette bande de saints comédiens. C'est tout de cela que cela devrait être. Vous êtes un serpent pour commencer. C'est exactement juste, oui. Et ici se trouve Monsieur Grenouille, avec cet immense cigare dans sa bouche, comme un bœuf du Texas décorné. Il se tiendra là, il regardera tout autour de lui, il dira, bien, je ne me suis jamais senti condamné de fumer. Je vais tout de suite sortir de cette chose. Bien, vous, vieille grenouille, c'est ce que vous étiez pour commencer. C'est exactement juste. Votre nature prouve ce que vous êtes. Votre vie montre, reflète ce que vous êtes. Et au commencement, ce n'est pas difficile pour moi de voir cela. Ce n'est pas difficile pour vous de voir cela. Si j'allais chez Roy Slaughter, un fermier assis ici, et que je vois les cochons sur un tas de fumier manger du fumier, je ne penserais pas du mal de cela. C'est un cochon. Mais si je voyais un agneau sur le tas de fumier, je serais étonné. Vous voyez? Ne vous en faites pas. Vous ne le verrez pas là. Il ne pourrait pas y tenir. C'est juste. Et un homme qui est né de l'Esprit de Dieu est les choses du monde, c'est juste. Car si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Si je sors avec des femmes chaque jour et que je reviens dire à ma femme que je l'aime, elle saurait que je suis un menteur. Mes actes parleraient plus fort que mes paroles, certainement. Je lui prouverais que je ne l'aime pas parce que je ne lui ai pas été fidèle. Et si elle me disait qu'elle m'aime, et chaque fois que je pars, elle sortait avec quelqu'un d'autre, cela prouverait qu'elle ne m'aime pas. C'est juste. Ses actes le prouvent. Cela m'est égal combien elle essayerait de me dire, « Oh Bill, je t'aime, et il n'y a personne au monde que toi. » Je saurais que c'est une menteuse. Et quand vous essayez de dire, « Seigneur, je t'aime, et que vous fassiez les choses du monde, Dieu sait que vous êtes un menteur pour commencer. » Ainsi, pourquoi ? À quoi ça sert-il d'accepter une vieille demi-expérience ou quelque chose d'autre comme cela, quand les grands cieux des cieux sont pleins de la vraie chose? Pourquoi voulez-vous être un soi-disant chrétien misérable, demi-cuit, quand vous pouvez être un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, avec les cloches de joie des cieux sonnant dans votre cœur, vous réjouissant et louant Dieu et vivant une vie de victoire par Jésus-Christ? N'essayons pas de le faire vous-même. Parce que vous avez perdu pour commencer. Mais prenez-le, c'est la parole. Et reposez-vous sur ce qu'il a dit être la vérité. Et croyez-le, et aimez-le. Et il fera que toute chose aille bien, de bien en bien pour vous. C'est cela, c'est l'idée. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne veux pas vous gronder, mes frères, c'est mieux de recevoir une petite réprimande. Vous êtes mes petits, vous voyez? Et n'importe quel papa qui aime ses gamins les corrigera certainement. Ou il n'est pas la vraie sorte de papa. Est-ce juste? C'est juste. Et ce papa n'a qu'une règle, et c'est la règle de la maison. Et Dieu n'a qu'une règle, et c'est sa parole. Si nous croyons la parole, alors nous vivrons par sa parole. C'est notre devoir si nous avons jamais rencontré Dieu. Pas parce que vous dites, bien, je vais à l'église et je dois faire ceci. Vous êtes misérable. Ne faites pas cela. Pourquoi voulez-vous être un corbeau décrépit, misérable et sans Dieu, alors que vous pourriez être une colombe? Certainement, vous devez simplement avoir votre nature changée. Et vous changez votre nature, devenez un fils et fille de Dieu. Soyez en paix avec Dieu. Jésus, c'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple, par son propre sang a souffert hors de la porte. Hébreux 13, 12 et 13, et Romains 5, 1. Étant donc justifié par la foi,
pas en vous serrant la main, pas par l'eau du baptême, pas par l'imposition des mains, pas en criant, pas en parlant langue, pas par des sensations, mais étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes devenus de nouvelles créatures parce que nous avons cru au seul Fils unique de Dieu et que nous l'avons accepté comme notre Sauveur personnel. Et son sang agit ce soir comme une propitiation pour notre péché, se tenant à notre place. Dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'un endroit pour avoir la communion, c'est sous le sang. Chaque croyant devait venir sous le sang. Et quand la génisse rouge était tuée, elle était faite pour une offrande de culpabilité. Elle doit être rouge. Le 19e chapitre de l'Exode, s'il y en a parmi vous qui veulent le lire. Et elle doit être prise, et elle doit être, tout doit être brûlé ensemble. Et alors, on en faisait une eau de séparation. C'était arrangé hors de la porte. Cela devait être manipulé avec des mains propres. Le sang de cette génisse allait devant à la congrégation et marqué 7 fois au-dessus de la porte. Et maintenant, chaque personne souillée, avançant, doit d'abord reconnaître et voir ce sang et réaliser qu'il y a seulement communion sous ce sang. C'est le seul endroit où l'adorateur pouvait vraiment adorer officiellement. C'était sous le sang. Puis, la première chose qu'il devait faire, avant qu'il ne puisse venir sous le sang, cette eau de séparation devait être aspergée sur lui. Et la souillure était rendue propre. Et il prenait l'eau de séparation et il l'aspergeait sur l'homme de voyage et le séparait de son péché. Et alors, il marchait sous ses 7 raies de sang et avait la communion avec le reste des croyants dans la présence de Dieu. Il n'y a qu'une seule manière de le faire. Pas en serrant la main, pas en joignant l'église, pas par le baptême, pas par les émotions, mais avancez vers les eaux de séparation. Posez vos mains par la foi sur la tête de Jésus et dites « Je suis un pécheur et tu es mort à ma place. Et quelque chose en moi me dit que tu me pardonneras mes péchés si je t'accepte comme mon sauveur personnel maintenant. » Marchez sous le sang de là. Ayez la communion avec les enfants de Dieu. C'est cela. Mangez le pain et buvez le vin. Ayez communion avec l'Église. Oh, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas bon? Maintenant, cela peut vous paraître étrange, ami. Mais pourquoi est-ce que je me tiens ici pour dire ces choses? Est-ce que je les dirais pour essayer de me faire différent d'un autre? Si je le fais, alors j'ai besoin de repentance. Mais je le dis parce que Dieu l'a dit, parce que c'est la parole de Dieu. Et écoutez, il viendra un temps, et c'est maintenant, où le peuple ira de l'est à l'ouest, essayant de trouver la parole de Dieu, et ne la trouvera pas. Quand vous allez dans une réunion, la première chose que vous faites, vous avez des langues et des interprétations. Et quelqu'un se lève et commence à citer les Écritures. Et c'est charnel. Absolument. Dieu dit pour nous de ne pas employer de vaines répétitions. Et que pensez-vous de lui? S'il l'a écrit une fois, vous le croyez? Il ne doit pas le dire de nouveau. Les langues et interprétations sont justes, mais ça doit être un message direct à l'Église et à quelqu'un. Pas seulement charnel et des choses comme cela. Et alors, vous avancez dans toutes ces autres choses. Ici, l'autre jour, 2 hommes marchèrent dans un... Et un homme et une femme, et un autre homme et une femme, juste des jeunes mariés, ils entrèrent dans un endroit pour aller en Afrique comme missionnaires. Quelqu'un se leva et donna une prophétie, et parla en langue, et interpréta que l'un avait la femme de l'autre, que cela ne devait pas être ainsi, qu'ils avaient marié la mauvaise personne. Et ces 2 personnes se séparèrent et se remarièrent de nouveau. Un homme prit la femme de l'autre et l'autre dans une des principales dénominations de Pentecôte. Et ils allèrent en Afrique comme missionnaires. Frères, quand vous faites votre serment, vous avez le devoir de respecter ce serment jusqu'à ce que la mort vous libère. C'est exactement juste, certainement. Et quand vous prêtez serment, cela vous lie. Tout ce non-sens. Et cela est arrivé à un tel point que quand vous allez dans les églises, c'est soit si froid et formel et sec jusqu'à ce que le thermomètre spirituel aille à 50 en dessous de 0. Les gens sont assis là comme une verrue sur un cornichon, juste aussi aigre et indifférent et crispé. Et si vous entendez quelqu'un tout là-bas dans un coin qui grogne un petit « Amen » de temps en temps, comme si cela leur faisait mal,
Ils tendront tous leur cou comme des oies pour regarder et voir ce qui s'est passé. Vous savez que c'est la vérité? Je ne dis pas cela comme une plaisanterie. Ce n'est pas un endroit pour plaisanter. C'est la vérité. Juste, je le dis parce que c'est la vérité de l'Évangile. Et de l'autre côté, vous avez un tas de non-sens, un tas d'émotions charnelles qui se passent. Et la vraie parole de Dieu, finalement, est telle que vous pouvez rarement l'entendre. Le vieil Évangile du milieu de la route. La lumière sur mon chemin. Alléluia! Le sang de l'agneau, l'amour de Dieu qui nous sépare des choses du monde. Avez-vous parlé en langue, frère? Vous ne l'avez pas. Avez-vous crié quand la sensation froide est montée sur votre dos? Avez-vous vu des boules de feu? Oh, tout du non-sens! Pas de choses pareilles! Avez-vous cru au Seigneur Jésus-Christ et l'accepté comme votre sauveur personnel? Et l'Esprit de Dieu est d'accord avec votre esprit que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et votre vie porte des fruits d'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'humilité, la gentillesse. Alors vous êtes un chrétien. Si cela ne l'est pas, peu m'importe quoi que vous fassiez. Paul a dit, « Je pourrais donner mon corps pour être brûlé comme sacrifice. Je connaîtrai tous les mystères de Dieu. Je peux transporter les montagnes avec ma foi. Je peux parler les langues des hommes et des anges. Je ne suis rien. » Que pensez-vous de cela? 1 Corinthiens 13. Trouvez si c'est juste ou faux. Maintenant, trouvez si Corinthiens, 2 Corinthiens 13, c'est, je crois. Ou bien, c'est soit 1 ou 2 Corinthiens. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 13, c'est juste. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, celles qui peuvent être interprétées, celles qui ne le peuvent pas, je ne suis rien. Ainsi, à quoi cela sert-il de s'amuser avec cela alors? Même si je comprends tous les mystères de Dieu, pourquoi allez-vous au séminaire essayer de tout apprendre? Vous feriez mieux de vous mettre d'abord en ordre avec Dieu, certainement. Même si, oh béni, alléluia, vous en êtes que vous ne pouvez même pas avoir une congrégation, à moins que vous ayez une campagne de guérison ou quelque sorte de miracle qui se passe. Une génération faible et adultère cherche cela. Que voulez-vous avoir à faire avec tout cela? Paul disait qu'il pouvait faire toutes sortes de choses, même transporter les montagnes. Et il est encore rien. Alors qu'il y a des langues, elles cesseront. Alors qu'il y a de la connaissance, elle disparaîtra. Alors qu'il y a des prophéties, elles failliront. Mais quand ce qui est parfait sera venu, cela restera pour toujours. Et l'amour, c'est la perfection. Dieu aima tellement le monde qu'il donna à son Fils unique que ceux qui grelottent, ceux qui tremblent, ceux qui parlent, ceux qui croient en lui ne périront pas, mais auront la vie éternelle. Croyez cela, enfant. Ils essaient de le rendre si compliqué. Ces choses et ces choses, alors que cela n'en arrive qu'à une chose, votre foi personnelle en Dieu, c'est tout. Cela veut tout dire. Car par la foi, pas par des sentiments, par la foi, pas par émotion, par la foi, pas par les sensations, mais par la foi, vous êtes sauvés. Et que parce que vous avez cherché le Seigneur, parce que vous étiez une bonne personne, parce que Dieu, par grâce, vous a préconnu et ordonné à la vie éternelle. Jésus a dit, aucun homme ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire d'abord. Et tous ceux qui viennent, je leur donnerai la vie éternelle. Personne ne peut les arracher de ma main. Ils sont miens. Ils sont sauvés pour toujours. Je les ai. Personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Il est celui qui me les a donnés. Ils sont mes cadeaux d'amour. Et tous ceux qu'il a préconnus, il les a appelés. Il n'appelle personne, à moins qu'il ne le connaisse. Tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Tous ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ainsi, vous voyez, nous sommes dans un repos parfait. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de légalistes ici. 90%. Maintenant, regardez si vous voulez simplement prendre ceci et réaliser que je n'essaye pas de vous dire quelque chose que vous dites, « Bien, frère Branham, j'ai toujours pensé que je devais faire ceci et que je devais faire cela. » Il y a une telle différence en cela, frère, en ce que vous devez faire et en ce que vous voulez faire. Vous êtes sauvé pas parce que vous aviez une chose à faire. Avec cela, vous êtes sauvé parce que Dieu vous a sauvé dès avant la fondation du monde. Écoutez ici. La Bible a dit dans l'Apocalypse, je vais vous prendre du premier au dernier maintenant. La Bible a dit dans l'Apocalypse que quand la bête vint, il séduisit tout le monde sur la terre. La bête l'a fait. Il séduisit tout le monde sur la terre. Ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Depuis que le réveil a commencé, est-ce que cela sonne juste? Bien, depuis que le prédicateur a prêché ce fameux sermon, depuis que cet homme a été guéri, depuis la fondation du monde. Où Jésus a-t-il été immolé? Au calvaire? Non, monsieur. Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Dieu, au commencement, quand il vit le péché, il vit ce qui arriverait. Il prononça la parole et Jésus fut mis à mort dès avant la fondation du monde. Et chaque personne a été sauvée, d'après la Bible, quand l'agneau a été immolé dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Là, vous avez été inclus dans le salut. Ainsi, qu'allez-vous faire pour cela? C'est Dieu, béni soit le nom du Seigneur. C'est Dieu qui œuvre, pas celui qui veut ou celui qui court, mais c'est Dieu qui montre miséricorde. Et si Jésus a été immolé dès avant la fondation du monde, cela a pris 4000 ans avant que cela n'arrive vraiment. Mais quand Dieu le prononce alors, chaque parole de Dieu est inébranlable. C'est immuable, c'est inséparable. Elle ne peut pas faillir. Et quand Dieu mit le Fils à mort avant la fondation du monde, il était aussi bien mort qu'il ne l'était au calvaire. C'est un produit fini quand Dieu l'a dit. Et rappelez-vous, quand l'agneau a été immolé, votre salut était inclus dans le sacrifice. Parce que la Bible dit que votre nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Que pensez-vous de cela? Maintenant, qu'allons-nous faire? C'est Dieu qui montre sa miséricorde. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui vous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Jésus a dit, vous ne m'avez jamais choisi. Je vous ai choisi. Et je vous connaissais avant la fondation du monde. Là, vous y êtes. Ainsi, vous voyez, cela sort toute peur hors de vous. Oh, je me demande si je pourrais tenir. J'y arriverai, béni soit Dieu. Si je veux simplement continuer de tenir, ce n'est pas si je tiens ou pas, c'est si il tient ou pas. C'est ce qu'il a fait, pas ce que j'ai fait, ce qu'il a fait. Est-ce sous la loi de la rédemption? Il y a une petite chose que je veux dire avant de terminer. Que pensez-vous si une vieille jument donnait naissance à un petit mulet, et que ce petit mulet ait les deux oreilles cassées, qu'il ait les yeux croisés et les jambes en serpent, en serpette, les cagneux, sa queue se tenant toute droite en l'air? Quel animal horrible à voir! Mais n'importe qui, si ce petit mulet pouvait penser, disons, maintenant attendez une minute, quand ils sortiront de la maison ce matin, je vous dis, je vais certainement être frappé derrière la tête parce que ils ne me donneront jamais à manger. Regardez la chose horrible que je suis, je n'ai même pas une chance. Bien, c'est juste, vous n'avez pas une chance. Bien, je suis né dans ce monde, mais regardez ici quelle chose horrible je suis. Ainsi, je n'aurai aucune chance. Je n'y arriverai pas. Je ne peux pas y arriver, voyez? Mais si sa maman est vraiment instruite dans la loi, elle dira, fils, c'est juste, tu es complètement déformé, tu n'es même pas capable de manger la nourriture de la terre, c'est juste, tu n'es pas capable. Mais fils, tout de même, tu es mon premier-né, et tu sais, tu es né sous un droit d'aînesse, et le prêtre ne te verra jamais. Mais pour ton nom, un agneau innocent, sans tache, doit mourir à ta place afin que tu puisses vivre. Bien, ce petit mulet pourrait juste frapper ses talons et passer un bon moment. Ça ne fait aucune différence ce qu'il est, parce qu'il ne sera jamais vu par le juge, le prêtre. C'est à l'agneau que le prêtre regarde, pas au mulet, à l'agneau. Et c'est à Christ que Dieu regarde, pas à vous, c'est à Christ. Ainsi, s'il n'y a pas de faute en lui, comment peut-il y avoir faute? Comment peut-il trouver des fautes quand vous êtes mort et que votre vie est cachée en Christ par Dieu, scellée par le Saint-Esprit? Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché, car ils ne peuvent pas pécher. Comment peuvent-ils pécher quand un sacrifice parfait a pris leur place? Dieu ne me regarde jamais, il regarde à Christ, parce que nous sommes en Christ. Maintenant, si j'aime Christ, je vivrai avec lui. Il ne m'aurait jamais fait entrer à moins qu'il ne l'ait su. Et si Dieu me sauve aujourd'hui, sachant qu'il va me perdre dans 6 semaines, il fait échouer son propre dessein. C'est juste. Alors il ne sait même pas le futur, s'il me sauvait, sachant. Pourquoi veut-il me sauver, sachant qu'il me perdra? Dieu ne fait pas des choses puis les reprend dans 2 semaines pour tenir sa promesse. Quand il vous a sauvé, c'est pour le temps et l'éternité. Amen. Maintenant, vous pouvez être travaillé et vous pouvez dire, « Oh, béni soit Dieu, alléluia, j'ai parlé en langue, j'ai crié, je l'ai, alléluia !» Cela ne veut pas dire que vous l'ayez, mais frère, quand quelque chose vient là, dedans, et que vous êtes ancré en Christ, alors les fruits de l'Esprit vous suivent. Et nous attestons notre esprit avec son esprit que nous sommes des fils et des filles de Dieu. S'il vous plaît, ayez cela, amis. Je vous parlerai toute la nuit parlant de cela. Je l'aime. Je vous aime. Je reviens à ce petit tabernacle bien des fois, si Dieu épargne ma vie. Je veux vous voir enraciné et fondé dans cette sainte foi. Je ne veux pas vous voir ballotté par chaque petit vent de doctrine qui passe, et trembler et faire des scènes, et avoir un peu de sang dans vos mains, ou un peu de sel sur leur visage, ou quelque chose d'autre, et voir des sortes de lumière devant eux, et quelque sorte de choses égoïstes, comme la Bible dit, gonflé dans son cœur et ne voyant rien. C'est juste. Je veux que vous soyez solides sur la parole. Si c'est ainsi parle le Seigneur, restez avec cela, vivez avec cela. C'est le Ourim Toumim de ce jour, et Dieu veut que vous viviez par cela. Si ce n'est pas dans la parole, alors oubliez-le et vivez pour Dieu, pour Christ. Et si votre cœur commence à s'égarer, vous savez que quelque chose est arrivé. Retournez à l'autel et dites, ô Christ, renouvelle-moi la joie de mon salut. Donne-moi cet amour que j'avais une fois. Il s'en va, Seigneur. Il y a quelque chose que j'ai fait. Fais de moi de nouveau un saint. Dites, ô Seigneur, rien que je puisse faire. Je ne peux pas arrêter ceci. Je ne peux pas arrêter cela. Je regarde à toi afin que tu me l'enlèves, Seigneur. Et je t'aime. Et partez de cet autel une nouvelle personne en Jésus-Christ. Alors vous n'aurez pas à dépendre de votre église, dépendre de votre prêtre, dépendre de votre pasteur, vous dépendrez du sang du Seigneur Jésus qui a été versé. Vous êtes sauvés par grâce. Prions. Seigneur, quel dur enseignement. Il est temps pour cette petite église de prendre de la viande et plus le lait de la parole. Nous avons trop été dans le lait maintenant, donnant son biberon au bébé. Mais nous nous devons maintenant d'avoir de la viande solide, car le jour approche. Des grands temps périlleux sont là, et il y aura encore plus de troubles se trouvant sur la route. Et nous savons qu'il n'y aura plus de meilleurs temps. Nous savons que nous sommes à la fin. Les temps continueront à devenir pire et pire jusqu'à ce que Jésus vienne en accord avec les Écritures. Nous ne pouvons rien leur promettre dans cette vie. Mais dans la vie à venir, nous pouvons alors leur promettre la vie éternelle par ta parole, s'ils veulent croire au Fils de Dieu et l'accepter comme leur propitiation, comme celui qui s'est tenu à leur place, comme celui qui a pris leur péché. Accorde-le maintenant. Que les incrédules deviennent des croyants. Que ceux qui font juste profession dans une église ici ce soir, qui ont fait profession de religion et qui vivent seulement dans l'église, qu'ils reçoivent une expérience avec Dieu. Qu'un tel amour vienne dans leur cœur, qu'ils pleurent pour leurs péchés et qu'ils meurent à eux-mêmes et naissent de nouveau par le Saint-Esprit et étant humbles et aimables et aimants et pleins de joie et de bénédiction. Vivant une telle vie qu'ils soient si salés qu'ils rendent les gens qui sont autour d'eux assoiffés d'être comme eux. Accorde-le, Seigneur, car nous le demandons en son nom. Et avec nos têtes inclinées, je me demande ce soir s'il y en a un qui veut dire, frère Branham, si j'étais pesé dans la balance de Dieu en ce moment, je ne serais jamais, jamais, jamais capable de répondre aux qualifications dont vous parlez ce soir. Je veux que vous vous rappeliez de moi dans votre prière, afin que je change mes habitudes, et Dieu viendra m'enlever tout ce non-sens et fera de moi un vrai chrétien. Voudriez-vous lever votre main pour une prière, comme vous, si vous le voulez? Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse là derrière. Eh, Dieu vous bénisse monsieur, Dieu vous bénisse grand frère, Dieu vous bénisse sœur. Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu des armées, les cieux et la terre sont remplis de toi, les cieux et la terre te louent, ô Seigneur très haut et saint. Comme vous pensez maintenant, priant, comme vous vous sentez convaincu que vous aviez tort et vous voulez être juste, voulez-vous lever votre main, disant, « Dieu, fais de moi ce que je devrais être. » Dieu vous bénisse, petite dame. Dieu, fais de moi ce que je devrais être. Dieu vous bénisse, frère, sœur, vous. Ici, le jour se meurt. Je sais que c'est dur, ami, mais c'est mieux de connaître la vérité maintenant. Priez tranquillement maintenant. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu,
lui seul est saint. Les cieux et la terre sont remplis de toi, les cieux et la terre te louent, ô Seigneur Tout-Puissant. Père céleste, comme le soleil se couche le soir, les rouges-gorges rassemblent les arbres avec leurs bien-aimés, tous les oiseaux vont à leur nid, les colombes s'envolent sur les fils, ô, afin que les serpents ne les ennuient pas pendant la nuit. Ils sont là, ils roucoulent l'un à l'autre jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Le soleil se couche finalement. Un jour, nous arriverons à 7 heures, le coucher de soleil arrivera. Je ne sais pas quand, Seigneur, mais il y a des gens ici ce soir qui sont convaincus qu'ils avaient tort, et ils veulent venir à cet endroit. Comme Lincoln y vint alors qu'il mourait, disant, « Tournez mon visage contre le coucher du soleil. » Et il commença, « Notre Père qui est dans les cieux, comme Moody le dit, « Est-ce la mort ? C'est mon jour de couronnement. » Ô toi, l'Éternel, reçois les justes maintenant. Par la foi, alors qu'ils sont assis dans leur chaise, tu frappes à leur cœur. À leur chaise, c'est leur autel. C'est le moment pour toi de les recevoir juste maintenant. Tu as dit, celui qui vient à moi, je ne l'abandonnerai jamais. Et un jour, quand le soleil se couche, quand la femme ou le mari sont là debout devant le lit, le docteur s'en est allé. Ô saint, saint, ce doux et magnifique silence juste avant le coucher du soleil, alors que nous pourrions nous lever et dire, coucher de soleil et étoile du soir, et un appel clair pour moi, et qu'il n'y ait pas de lamentation à la barre quand je pars pour la mer. Ô Dieu, accorde-leur en 7 heures, alors qu'ils attendent, attendant que la bénédiction de Dieu vienne sur eux, leur enlevant tout leur tempérament et tout ce qui est du monde, et crée en eux un nouveau cœur. Tu as dit, j'enlèverai le vieux cœur, et j'y mettrai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit dans ce cœur, et ils marcheront dans mes ordonnances et garderont mes commandements, parce que c'est une ordonnance d'amour, et pas de devoir, c'est d'amour, et l'amour nous conduit et contraint à le faire. C'est un devoir d'amour de nous contraindre. C'est notre devoir de suivre l'amour. Et je te prie, ô Dieu, que tu le donneras à chaque cœur qui a levé sa main ce soir. Et ceux qui n'ont pas levé leur main, qu'ils lèvent maintenant, par grâce, leur main pour t'accepter et pour être remplis avec ton esprit de cette manière humble, douce, tranquille et humble. Et étant plein de grâce, qu'ils sortent d'ici des personnes changées, comme les oiseaux chanteront différemment, et comme tout le monde sera différent après 7 heures. Ô Seigneur Très-Haut, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu de la terre. Les cieux et la terre sont remplis de toi. Les cieux et la terre te louent, ô Seigneur Très-Haut. Vous maintenant, avec vos têtes inclinées, vous qui avez levé votre main pour être rappelé dans la prière, vous sentez-vous comme si Dieu vous a parlé de cette manière maintenant? Pas par l'émotion. Maintenant, simplement quelque chose tout au fond de vous-même. Vous sentez-vous comme si Dieu vous a donné la vie éternelle? Vous sentez-vous comme sortant de l'église ce soir, comme une différente personne? Voulez-vous lever vos mains de nouveau ce soir? Dieu te bénisse, fils. Dieu te bénisse, frère. Dieu te bénisse, sœur. Dieu te bénisse, c'est juste. Je sortirai de cette église ce soir une nouvelle personne. Des nouveaux-nés dans le royaume de Dieu. Que s'est-il passé? Je sais que c'est un ordre de venir à l'autel. C'est un autel ou un credo méthodiste. Je veux dire un ordre méthodiste. Cela a été établi dans l'église méthodiste au jour de John Wesley. Cela n'a jamais existé dans les jours de la Bible. Tous ceux qui croyaient étaient ajoutés à l'église. Vous pouvez croire où que vous soyez, dans les champs, dans la rue, n'importe où, cela ne fait aucune différence. Pour autant que vous acceptiez Christ comme votre sauveur personnel. C'est une action du Saint-Esprit qui vient dans votre cœur. Et quand vous le croyez, quand vous l'acceptez, vous êtes passé de la mort à la vie et vous devenez de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Ne passe pas au-dessus de moi, ô gentil sauveur. Maintenant, levez-vous. Mes humbles pleurs, alors que tu en appelles d'autres, ne me dépasse pas. Maintenant, je veux que le jeune homme et la dame que je perçois être ta femme, qui avait levé votre main, je veux que vous leviez vos mains de nouveau là derrière. Fils, avec le manteau rouge et la dame, ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur personnel. Le jeune homme assis ici dans une chaise roulante a accepté Christ comme son sauveur. Et il a senti que Dieu l'a sauvé. Et les autres là derrière qui avaient levé vos mains, levez-les de nouveau afin que les gens puissent voir qu'ils aient communion avec vous.
serrez-leur les mains, quelqu'un se trouvant près d'eux, et dites-leur, Dieu vous bénisse, bienvenue dans le royaume de Dieu, mon frère et ma sœur. Communion, c'est ce que nous voulons, Dieu vous bénisse, serrez la main avec ce jeune homme ici dans la chaise, que le Seigneur soit avec lui, c'est juste. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la communion du Saint-Esprit. Et si vous n'avez jamais été baptisé et désiriez être baptisé, alors montez et parlez-en au pasteur. La piscine a même de l'eau, elle est remplie d'eau ce soir, si vous voulez être baptisé. Tout est prêt. Aviez-vous de toute manière des baptêmes? Mais la piscine est prête si quelqu'un veut être baptisé. Car la Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. L'aimez-vous? Levez votre main. Oh, n'est-il pas merveilleux? Comment aimez-vous ce livre des Hébreux? L'aimez-vous? Oui, magnifique. Maintenant, c'est la correction. Oh, c'est sévère et c'est sec. Mais nous aimons cela. C'est de la manière que nous voulons l'avoir. Nous ne voudrions l'avoir d'aucune autre manière. Maintenant, croyez-vous que Paul a eu une autorité de le prêcher comme cela? Paul a dit, si un ange descend et prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Est-ce juste? Ainsi, nous l'aimons avec tout notre cœur. Maintenant, je vais demander au pasteur de venir ici juste un moment. Notre très précieux frère, frère Neuville. Et il doit avoir un mot à vous dire. Et maintenant, le Seigneur voulant, nous nous verrons mercredi soir. Et nous ferons le nécessaire pour aller chez le frère Graham Snelling pour une soirée congrégationnelle. Et alors, nous continuerons de prêcher ici le 7e et 8e chapitre mercredi soir. Frère Neuville.